7h, 9h.
Nikos Aliagas sur Europe 1.
Bonjour à vous qui vous réveillez, bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 8 novembre et l'actualité du jour, ce sont encore les commémorations de 14-18. À 7h20, nous allons vous raconter le travail titanesque réalisé par des archéologues de la Grande Guerre. Comment, à partir de restes, d'un squelette, on peut reconstituer l'identité d'un soldat, son visage, retrouver son nom et donc honorer sa mémoire. La question du jour, à propos de l'actualité, peut-on commémorer Philippe Pétain ? Les propos du président sont sujets à polémique, à tort ou à raison, le point de vue de Jean-Michel Apathy, on en parlera à 7h40. 7h45, je reçois un philosophe, il prendra la parole. Comment retrouver un peu de sérénité dans un quotidien de tension, de grogne et de colère ? Séance de méditation sur l'actualité avec Frédéric Lenoir. 8h15, Audrey Caspomara reçoit le député de France Insoumise, Alexis Corbière. Et puis à 8h35, je passerai un coup de fil à Jamel Debbouze pour rire, sourire, car il remonte sur scène avec un nouveau spectacle. Ça s'appelle Maintenant ou Jamel, c'est sa journée. Bon réveil à tous.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 ce jeudi 8 novembre. Il est 7h. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas.
Le journal avec vous, ma chère Hélène Zellani, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
La journée nationale contre le harcèlement scolaire, la vidéo d'un petit garçon de 7 ans émeut les réseaux sociaux. Détail dans un instant. Le traumatisme des habitants des immeubles délabrés à Marseille. Deux autres bâtiments vont être détruits dans la journée. Et puis c'est un très grand compositeur français qui nous a quittés, Francis Lai, auteur du fameux Shabadabada.
Europe 1.
C'est une vidéo qui déchire le cœur. Elle a été mise en ligne tard hier soir sur le site du Parisien. On y voit un petit garçon de 7 ans en larmes dénonçant le harcèlement dont il est victime dans son école. Il en arrive même à penser au suicide.
Depuis l'année dernière, j'ai un petit garçon qui me tape tout le temps. Aujourd'hui, c'est mon petit frère qui tape. J'ai dit à ma maman que j'ai envie de rejoindre le bon Dieu, de mourir. J'en ai marre de ce petit garçon. Qu'il arrête de me taper.
Voilà, un petit garçon de 7 ans qui parle de rejoindre le bon Dieu pour toujours, alors qu'aujourd'hui même, c'est la journée nationale contre le harcèlement scolaire. Que sait-on exactement de la situation de cet enfant, Jeanne Bergaoui ?
Eh bien, ce harcèlement se déroule dans un établissement catholique privé de l'Aisne où sont scolarisés l'enfant de 7 ans, son petit frère et celui qu'il dénonce comme agresseur. Dans la séquence vidéo filmée au téléphone portable, entre deux sanglots, ce petit garçon témoigne de coups et de maltraitance qui dure depuis plusieurs mois. Un calvaire qui a poussé sa mère à déposer plainte le mois dernier auprès de la gendarmerie. Selon Le Parisien, la direction de l'école a prévenu les autorités compétentes. Diffusé mardi soir, ce témoignage bouleversant est devenu viral. Il a déjà été visionné plusieurs centaines de milliers de fois. Et ça fait réagir les internautes. Certains ont posté des vidéos de soutien au petit garçon pour lui dire de s'accrocher.
Jeanne Bergaoui, Brigitte Macron s'engage à porter le combat contre le harcèlement scolaire aux côtés du chanteur Mika. La première dame, elle-même ancien prof, va se rendre dans une école avec le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer la semaine prochaine. Europe 1, il est 7h01.
Décidément, le périple d'Emmanuel Macron est semé d'embûches.
Oui, le président qui a dû affronter une nouvelle polémique hier pour des propos sur le maréchal Pétain. Il jugeait légitime de rendre hommage aux grands soldats de la Première Guerre. Marche arrière dans la journée lors de la cérémonie de samedi. Seuls les 5 maréchaux des Invalides seront honorés. L'historien Jean-François Henry rappelle que la plupart des anciens présidents avaient rendu hommage au maréchal Pétain en tant que héros de 14-18.
Le premier chef de l'État à honorer la mémoire du vainqueur de Verdun était le général de Gaulle, qui a fait déposer le 10 novembre 1968 une gerbe à l'occasion de l'anniversaire de la victoire de 1918. Ensuite, il y a eu la fameuse vol du cercueil qui a été retrouvé dans la région parisienne et le cercueil a été déposé au Val-de-Grâce et le président Pompidou avait fait envoyer des fleurs qui ont été déposées sur la tombe. Ensuite, Valéry Giscard d'Estaing a déposé en 1978 une gerbe à l'occasion du 60e anniversaire de l'armistice. Et enfin, c'est le président François Mitterrand qui, lors de la rencontre du 22 septembre 1984 avec le président Edmond Kohl, a fait déposer à ce moment-là une gerbe sur la tombe de Pétain. Puis chaque année, le 11 novembre, à partir de 1987 jusqu'en 1992. C'est une habitude de bien différencier le vainqueur de Verdun, le général en chef des armées françaises et le chef de l'État français de Vichy.
L'historien Jean-François Henri, joint pour Europe 1 par Jean-Jacques Herry. Aujourd'hui, au programme d'Emmanuel Macron, la visite d'une usine Renault près de Maubeuge et cet après-midi, la plus grande nécropole militaire française à Notre-Dame-de-Lorette, dans le Pas-de-Calais. À Marseille, où le bilan provisoire est de 6 morts, les recherches dans les décombres de 2 immeubles sont désormais suspendues. Décision des autorités qui craignent de nouveaux effondrements. D'ailleurs, 2 autres bâtiments seront détruits dans la journée. Les habitants du quartier vivent dans la crainte, comme Léa, qui a d'ailleurs choisi de quitter son appartement.
On a du mal à dormir, on a peur que notre bâtiment s'écroule. On vit un calvaire. On a des fissures au plafond, au mur, le sol au carrelage. Ils vous répondent, on ne dépense pas cet argent pour ce bâtiment.
C'est ce que vous dit le syndic ?
Oui.
Combien vous payez de loyer par mois ?
450 euros. Une pièce, une seule pièce. On en a marre. Tous les bâtiments sont fissurés, dont le nôtre, on en a marre. On n'a pas envie de mourir dans ça. Ça me stresse.
Vous vivez avec la peur ?
Depuis ce drame, oui. Enfin, je ne pensais pas qu'un tel drame allait se passer. C'est pas dans des villes comme ça que ça doit se passer. On se croira en Irak, avec tous ces gravats et ces bâtiments qui menacent de s'effondrer encore.
Une habitante de la rue d'Aubagne à Marseille, au micro Europe 1 de Nathalie Chevance. Et ce matin, le maire de la ville, Jean-Claude Gaudin, très critiqué depuis le drame, va prendre la parole pour la première fois. Hier soir, une centaine de militants associatifs avaient manifesté en le traitant d'assassin. Aux États-Unis, Donald Trump indique la sortie à son ministre de la Justice. Il reproche à Jeff Sessions de ne pas l'avoir assez protégé dans l'affaire d'une éventuelle collusion avec Moscou lors de la présidentielle. Et la Maison-Blanche, par ailleurs, suspend l'accréditation d'un journaliste de CNN qui avait eu un échange houleux avec le président américain hier en conférence de presse. Cet échange d'ailleurs, vous allez l'entendre à 7h30. La pakistanaise Asia Bibi a retrouvé la liberté. Cette chrétienne mère de 4 enfants avait été acquittée il y a une semaine après 8 ans dans le couloir de la mort pour blasphème. Pour l'instant, elle est toujours au Pakistan.
Europe 1.
Dans un instant, la mobilisation se prépare pour le 17 novembre et puis la mort du grand compositeur Francis Lai. Bon réveil à tous, à tout de suite. Et la suite du journal avec Hélène Zélani. Qu'allez-vous faire le 17 novembre ? Oui, vous qui nous écoutez, vous allez manifester, vous allez rester chez vous. Ça vous parle, la hausse des prix des carburants ou pas ?
Bah, en tout cas, la mobilisation s'annonce conséquente pour bloquer les axes les plus fréquentés. Ceux qu'on appelle les gilets jaunes utilisent les réseaux sociaux pour lancer des initiatives dans toute la France, comme dans le Var, à Fréjus, où un couple a lancé l'idée il y a 2 semaines et ça prend. Frédéric Michel.
15 000 personnes intéressées, 4 000 autres qui annoncent leur participation au blocage en lançant leur appel. Romain et Océane espéraient mobiliser, mais n'imaginaient pas que leur page Facebook serait prise d'assaut.
En un jour, on a atteint 2 000, 3 000 personnes. C'était exceptionnel, quoi.
Il y a beaucoup de personnes qui se sont proposées pour nous faire des affiches, donc des imprimeurs qui nous font des banderoles.
Bloquer le péage de Fréjus sur la 8, ok, mais pas question d'être récupéré. Le Rassemblement National et le mouvement de Nicolas Dupont-Aignan ont bien tenté.
On dit non, nous, on c'est les citoyens contre le gouvernement.
Ah non, on veut pas de récupération.
Le fait que ce soit apolitique, on peut faire venir énormément de monde sans qu'il y ait de barrière.
Apolitique et pacifique, voilà comment le jeune couple qui travaille et n'a jamais milité imagine cette journée d'action.
Nous, on ne veut pas de violence, on ne veut pas d'insultes, pas de casse. Au niveau des forces de l'ordre, on ne veut pas de confrontation. On n'est pas là pour créer des problèmes, on est là pour se faire entendre.
Ça peut peut-être pas faire changer les choses en un jour, mais il faut un commencement. On va dire que ça commence le 17.
Et il n'y a pas qu'au péage de Fréjus que ça devrait boucher. Dans le Var et les Alpes-Maritimes, 4 autres points de blocage sont prévus.
Frédéric Michel, l'un des correspondants d'Europe 1 dans le Sud. Et sachez que le syndicat de police SGPFO se joint au mouvement de contestation du 17 novembre. Il appelle ses adhérents à une journée sans contravention.
Son nom restera jamais associé à celui de Claude Lelouch. Francis Lai vient de nous quitter. Il avait 86 ans.
Oui, on lui doit notamment la musique du film Un homme et une femme ou encore la chanson d'Yves Montand à bicyclette. Retour sur une immense carrière avec Thierry Géfrotin.
Nous sommes le 15 avril 1971 à Los Angeles. Francis Lai vient de recevoir un Oscar pour la musique de Love Story. Le monde entier met un visage sur une mélodie. De Francis Lai, on connaît avant tout ses compositions. Un homme et une femme, bien sûr. Et pratiquement tous les films de Claude Lelouch. Et pourtant, Francis Lai a encore trouvé le temps et l'inspiration pour travailler avec René Clément, Henri Verneuil, Philippe de Broca, Claude Zidi, Georges Lautner, la célébrité en France, mais aussi en Italie et au Japon, pour un homme si discret, si simple, et qui ne manquait pas une occasion de vous rappeler ses débuts, l'accordéon et les balles dès l'âge de 16 ans. Chez lui, il y avait évidemment une pièce pour la musique, un véritable studio d'enregistrement, avec de nombreux claviers sur lesquels il aimait improviser. Ce qu'il cherchait, c'était le thème simple, mémorisable dès la première écoute, quelque chose d'évident, comme ce générique de l'émission de télé, Le cinéma de minuit.
Mythique, Le cinéma de minuit.
On pourrait laisser encore un peu cette musique, pour le réveil, pour les gens. C'est la Madeleine de Proust, non ? Ça nous rappelle un peu notre enfance.
Exactement.
C'était le journal d'Hélène Zellani. Merci Hélène.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Et à 7h10, on passe à l'édito éco de Nicolas Barré.
Nicolas Barré, le directeur de la rédaction du journal Les Échos. Nicolas, vous avez rencontré le patron de la plus grande banque du monde. Il s'appelle Jamie Dimon. Il est patron de JP Morgan. Et il vous a dit que Paris sera le grand gagnant du Brexit.
Oui, alors certes, JP Morgan est la plus francophile des banques américaines. Elle est présente à Paris depuis 150 ans. Elle avait financé Napoléon III dans la guerre de 1870 contre la Prusse, puis financé l'État français pendant la Première Guerre mondiale. Alors forcément, ça crée des liens. Reste que son patron, Jamie Dimon, est un capitaliste avant d'être un sentimental. Et donc, il estime que la France, je cite, sera l'un des grands bénéficiaires du Brexit. La banque, d'ailleurs, s'y prépare depuis de longs mois. Des centaines de personnes vont être déplacées de la City vers le continent. En France, donc, et puis aussi en Allemagne également.
Et il n'est pas le seul à faire ce choix, en fait.
Non, pas le seul. En effet, la troisième banque américaine, Wells Fargo, vient d'annoncer le transfert d'activité à Paris. Un autre géant de Wall Street, la banque City, a fait de Paris son hub européen, et puis Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs, HSBC, etc., j'en passe, se renforce aussi chez nous. L'objectif de Paris, c'est la création quand même de 10 000 nouveaux emplois. On en est déjà à la moitié, c'est donc très significatif, c'est pas du tout anecdotique, sachant que le Brexit en plus n'a pas encore eu lieu, puisqu'il sera enclenché que fin mars, et qu'il y aura encore 2 ans de négociations pour aboutir à un accord. Mais enfin, la menace suffit, les activités financières sont extrêmement mobiles, on le voit, d'autant que la France a fait ce qu'il faut pour attirer ses emplois. Le patron de JP Morgan estime que les réformes sociales, la stabilité juridique et puis des taux d'impôts qui ont été revus en baisse rendent aujourd'hui la France, je cite, attractive pour 10 ans. C'est quand même un joli compliment.
Donc ça veut dire qu'il va falloir investir dans la pierre.
Exactement. D'ailleurs, les prix de l'immobilier montent à cause de ça.
Nicolas Barré, l'édito éco, c'est tous les jours à 7h10 sur Europe 1.
Et il est 7h12, Nico Saliagas, c'est une semaine spéciale consacrée à l'itinérance mémorielle d'Emmanuel Macron pour le centenaire de la Grande Guerre. On retrouve Lionel Gougelot qui se trouve sur le terrain.
Et toute la semaine, il est sur site. Vous êtes où ce matin, Lionel ?
Eh bien, ce matin, Nico, je suis au pied de la colline de Notre-Dame de Lorette, à une dizaine de kilomètres de Lens, là où reposent 40 000 soldats tombés lors de la bataille d'Artois en 1914 et 1915. C'est la plus grande nécropole de France, hein, Nico. Il faut vous imaginer un cimetière de 20 000 tombes sur un site de 25 hectares entouré d'arbres qui surplombe également les terris du bassin minier. Ici, on est dans le Pas-de-Calais. Et c'est au bord de ces alignements de croix blanches que j'ai rencontré Paul Leuillet. Lui, il fait partie des gardes d'honneur de Notre-Dame de Lorette. C'est une association qui a été créée en 1927 pour, bien évidemment, perpétuer la mémoire des soldats morts au combat, mais aussi, jusqu'à aujourd'hui encore, accueillir leurs descendants.
Des gens qui viennent de très loin, des arrière-petits-enfants qui essayent de retrouver leur aïeul, quoi. Donc ils nous donnent le nom, le prénom, et on a un ordinateur ici qui nous permet d'identifier les tombes où ils sont enterrés.
Vous les accompagnez jusqu'à la tombe ?
Voilà, tout à fait. On a un plan très précis de l'ensemble de la nécropole et on accompagne les personnes qui recherchent un défunt jusqu'à la tombe.
Ça doit être parfois des moments d'émotion assez forts.
Tout à fait, oui. Il n'est pas rare de voir les enfants, quand ils se sont recueillis sur la tombe, de les voir repartir en pleurant, quoi.
Et là, vous faites quoi ? Comment on vit ça ?
On les laisse un peu déjà s'isoler avec leurs défunts. On ne reste pas à côté d'eux. S'ils veulent prier, s'ils veulent se recueillir, voilà, on les laisse un peu tranquilles. Puis voilà.
Prier et se recueillir, combien sont-ils ces gardes d'honneur de Notre-Dame de Lorette, Lionel Gougelot ?
Eh bien, ils sont 4000, figurez-vous. 4000. Alors, pas forcément des anciens combattants, hein. Il y a un petit peu tous les profils. Ils se relayent au rythme d'une ou deux journées de garde par an, par groupe d'une vingtaine environ. Et si j'ai voulu vous en parler aussi ce matin, c'est parce que depuis 2 ans, figurez-vous, cette association est ouverte aux femmes. Je vous présente Bernadette. Elle a 65 ans. Elle fait partie de la 60aine de femmes qui sont venues, il faut le dire, hein, bousculer un peu les traditions très masculines de cette confrérie en intégrant donc la garde d'honneur.
Moi, j'étais enseignante, j'ai enseigné pendant 41 ans, et en fait, une fois par an déjà, on venait faire ce qu'on appellerait aujourd'hui des journées mémorielles, en fait. Et on venait à Lorette, on passait notre journée, et on montrait aux enfants, on leur expliquait ce qu'on leur avait expliqué en classe, voilà. Donc, alors, quand les femmes ont pu rentrer à la garde, c'était presque évident. Et mon plus grand bonheur, quand je viens ici, c'est justement quand je peux accueillir des groupes scolaires. Pour leur transmettre toujours ce même message de respect, de souvenir et de paix surtout.
Voilà, Bernadette, passeuse de mémoire, comme elle aime à se définir. Sa façon aussi de rendre hommage, bien sûr, aux soldats tombés sur ce que l'on appelait à l'époque la crête de Lorette.
Très beau reportage pour ces passeurs de mémoire qui luttent contre l'épreuve du temps. Merci Lionel Gougelot. Au pied de la colline de Notre-Dame de Lorette, dans le Pas-de-Calais, la plus grande nécropole de France, où est attendu le président de la République Emmanuel Macron cet après-midi pour honorer la mémoire de nos ancêtres tombés pour la France. Vous êtes tous ce matin, c'est tous les jours à 7h12. Au plus près de votre actualité.
Europe 1. Il est 7h15, restez avec nous sur Europe 1 à suivre Nico Salégas.
Et on va rester, ma chère Céline, au cimetière de Notre-Dame de Lorette dans le Pas-de-Calais pour vous raconter une histoire incroyable, celle du poilu Louis Millon, oublié pendant près de 100 ans avant d'être retrouvé par des archéologues de 14-18, un métier édifiant. Voyage dans le temps ce matin dans Europe 1 va plus loin, juste après ça.
Il est 7h18, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Saliagas.
Renault devrait confirmer l'investissement d'1 milliard d'euros dans les véhicules électriques. Ce matin, Emmanuel Macron visite le site de Maubeuge avec le PDG Carlos Ghosn. De nouveaux immeubles démolis aujourd'hui à Marseille par mesure de sécurité. 6 personnes ont pour l'instant été retrouvées dans les décombres de ceux qui s'étaient effondrés lundi. La Maison-Blanche retire son accréditation à un journaliste de CNN après un échange musclé avec Donald Trump. Hier, en conférence de presse, la chaîne dénonce une menace pour la démocratie.
Europe 1. Nico Saliagas, Europe 1 va plus loin, consacré aujourd'hui aux poilus de la Grande Guerre.
Et plus précisément à ceux que l'on retrouve encore 100 ans plus tard. Le dernier poilu à avoir formellement été identifié s'appelle Louis Millon. C'était en 2016. Louis Millon qui sera au centre de la cérémonie à Notre-Dame de Lorette cet après-midi dans le Pas-de-Calais, puisque son nom va être gravé sur l'anneau de la mémoire qui rend hommage aux soldats de la Première Guerre. Bonjour Pauline Jacquot.
Bonjour Nico, bonjour à tous.
Vous travaillez dans la rédaction d'Europe 1 et dans un instant, on va découvrir avec vous un métier méconnu, hors du commun, celui d'archéologue de 14-18. Mais tout d'abord, on va partir à la rencontre de la famille de Louis Millon. Elle habite en Isère. Rémi Pierre a rencontré le petit Yanis Millon a 8 ans, mais aussi Catherine, sa maman et son oncle Alain, ses descendants qui s'apprêtent à vivre une cérémonie pleine d'émotions aujourd'hui.
Il s'appelait Louis Millon, son surnom c'était Johannes. On voit sa plaque militaire, on voit des boutons de vareuse, on voit sa boucle de ceinture, une boucle de ceinture qui appartenait à mon arrière-grand-oncle. Ouais, ça me touche.
Je suis la maman de Yanis, l'arrière-petite-nièce de Louis Millon, du soldat Louis Millon. Je savais qu'il y avait un ancêtre qui avait fait la guerre puisqu'il était marqué sur le monument aux morts dans son village natal de Saint-Victor-de-Sessieux. Mais après, je n'avais jamais vraiment entendu parler de lui et on a découvert sa brève histoire quand on a découvert ses ossements.
Comment vous avez réagi? Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous?
On se pose des questions, savoir qui était cet homme et surtout ce qu'il a vécu. On se rend compte qu'il a dû souffrir énormément pendant cette guerre, qu'il était seul et surtout qu'il n'est jamais revenu dans son village, qu'il n'a jamais revu ses parents et ses frères. Donc c'est vrai qu'il y a un côté assez triste dans cette histoire et aussi de la fierté de savoir qu'il a pu être inhumé et qu'il a aujourd'hui un endroit où éventuellement nous on pourra se recueillir. Et on pense à tous nos ancêtres, à ses parents, ses frères qui auraient été heureux de savoir qu'on a pu retrouver sa dépouille.
Je suis un arrière petit-neveu. Il y avait 3 frères. Le premier, notre ancêtre, a échappé à la guerre, c'était l'aîné. Louis est parti, y est resté. Et ensuite, Henri a eu aussi des descendants qui sont nos cousins, qu'on fréquente et certains qu'on a découverts grâce à cet événement. Cet ancêtre a vécu des circonstances terribles. Il est mort tout seul, abandonné comme une machine. On a rendu à cet homme qui était simplement une suite d'écritures, sa taille, ses yeux, la couleur de ses cheveux, son identité. Et on a retrouvé un corps, il a retrouvé sa famille, des gens de son village, son pays, qu'il a reconnu. Et c'est donc une sorte de dignité qu'il lui a rendue. On lui a rendu un hommage comme si c'était un soldat qui venait de décéder dans une guerre présente, en Afghanistan ou au Mali. Pour les anciens combattants, c'est un camarade, alors que c'est quelqu'un qui est mort il y a 100 ans.
C'est une sorte de dignité qui lui est rendue, témoignage poignant recueilli par Rémi Pierre, l'un de nos correspondants en Rhône-Alpes. Pauline Jacquot, je reviens vers vous. Vous l'avez rencontré, cet archéologue qui a retrouvé les ossements de Louis Millon. Racontez-nous, comment ça s'est passé?
Eh bien, nous sommes dans le Pas-de-Calais en 2016, où l'on s'apprête à construire des lotissements. Et comme c'est aussi l'un des théâtres de combat de la Grande Guerre, des archéologues spécialisés viennent vérifier s'il n'y a pas sous terre des vestiges à préserver. Laetitia Dalmo et son équipe commencent alors à creuser, et voilà ce qu'ils découvrent.
On est tombé sur un squelette. Il était avec des boutons de vareuse, de la grenade française. C'est un motif en fait qui permettait l'identification des soldats entre les uns et les autres. Et en plus, on sait que ces boutons-là, ils n'ont pas excédé le 1916. Et dans sa main, il avait une plaque d'identification.
On retrouve aussi des bottes, des pièces de monnaie. Les gendarmes viennent constater la découverte. C'est le protocole, très strict. Si un archéologue tombe sur un soldat anglais, par exemple, il n'a pas le droit d'y toucher et doit obligatoirement contacter les services britanniques.
Est-ce que pour les identifier, ces soldats, ces poilus, la science d'aujourd'hui est plus puissante qu'avant ?
Oui, on peut faire des prélèvements ADN, mais c'est très rare et ça coûte aussi très cher. Ça fait du cas de Louis Mion une histoire exceptionnelle. Il a été retrouvé et surtout identifié. Pour vous donner une idée, dans le Pas-de-Calais, on ne retrouve qu'une dizaine de soldats chaque année, parmi lesquels les archéologues n'en identifient qu'un ou deux maximum.
Et lorsqu'ils sont identifiés, Pauline, on l'a entendu dans le témoignage, c'est un moment intense, émouvant pour les familles, car d'une certaine façon, on leur rend une partie de leur histoire.
Et ce n'est pas simplement un corps, on leur donne ce jour-là beaucoup d'informations sur leurs ancêtres. Grâce aux fichiers des régiments, on connaît le moindre déplacement des soldats jour par jour et ça permet d'éclairer la famille sur ce qu'ont été les derniers mois et même les derniers jours de leur aïeul.
Merci Pauline Jacquot de la rédaction d'Europe 1 pour ce reportage, ces explications, hommage rendu donc cet après-midi à Louis Mion à la nécropole de Notre-Dame-de-Lorette dans le Pas-de-Calais en présence de sa famille et du président de la République. Ce sera un moment inoubliable. Europe 1 va plus loin, c'est tous les matins à 7h20.
Europe 1, il est 7h24.
À suivre, dans un tout autre registre, l'innovation avec Anicet Mbida. Une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont des bobos qui cicatrisent mal. Anicet va nous parler d'un gel qui soigne les blessures sans laisser de cicatrices. Miraculeux. À tout de suite.
Il est 7h27.
Retrouvez l'innovation du jour avec EDF.
Et avec Anicet Mbida, Nicolas Saliagas.
Alors, on a tous des cicatrices sur la peau, plus ou moins importantes, dont on se serait bien passé. Mais ce matin, mon cher Anicet, vous avez peut-être trouvé un produit qui efface les cicatrices.
Oui, mais qui efface pas celles qui existent déjà.
C'est un gel,
on va dire magique, hein, qui va guider la peau un peu comme un tuteur pendant toute la cicatrisation. Parce qu'il faut le savoir, hein, si on se retrouve balafré ou avec la peau toute boursouflée, c'est parce que la blessure détruit des bulbes pileux qui ensuite empêche la peau de se reformer. La peau se reforme n'importe comment, sans aucun guide. Et bien, des chercheurs de l'université de Wazong en Chine ont découvert que dans la soie, il y avait une protéine magique qui était capable de jouer ce rôle de tuteur justement, mais aussi d'aider à faire repousser les poils et donc à régénérer une peau avec un aspect totalement normal.
Les mystères de la nature encore. Est-ce que ça marche avec je sais pas, de grosses cicatrices où il y a des points de suture?
Oui, ils l'ont testé sur des souris et sur de la peau cultivée en laboratoire et les résultats sont vraiment impressionnants. Pas de balafre, la plaie se referme sans laisser la moindre trace. Et c'est une découverte importante, hein, parce que jusqu'ici on pensait qu'avec les poissons et les grenouilles qui étaient capables de cicatriser sans trace, et ben désormais il y a aussi des mammifères, tout ça grâce à des protéines de soie.
On se croirait dans un film de science-fiction. Merci beaucoup Anicet. Et puisque on parle santé ce matin, on va en profiter pour féliciter notre journaliste, notre collègue Benjamin Lévesque, qui vient de remporter le trophée Signature Santé catégorie radio pour son très beau reportage sur les jardins thérapeutiques. Bravo Benjamin. Anicet Mbida, l'innovation du jour sur Europe 1, c'est tous les jours à 7h25.
C'était l'innovation du jour avec EDF. Accompagnement, soutien financier avec les prix EDF Pulse. EDF met en lumière les startups qui inventent notre avenir électrique. Plus d'infos sur edf.fr.
Dans un instant, le journal de Céline Kallmann.
La météo avec Rénoval, le réseau national de véranda et abri de piscine.
Et tout de suite, la météo avec Laurent Cabrol, Nikos.
Journée calme, mon cher Laurent Cabrol.
Oui. Il faut en profiter puisque à partir de demain, et surtout samedi et dimanche, nous aurons une agitation assez extrême sur la France avec de la pluie, avec du vent. Donc profitons de cette journée de jeudi, ma foi assez sympathique, avec certes beaucoup de brouillard, beaucoup de brume, enfin on n'y échappe pas, c'est la saison. Et ensuite, nous aurons des éclaircies assez belles sur la plupart des régions, avec quelques nuances. Cependant, les brouillards auront un petit peu plus de mal à se dissiper sur l'Orne, la Corrèze, le Lot-et-Garonne, la Haute-Garonne, l'Indre-et-Loire, par exemple. Nous aurons encore et nous avons encore un petit peu de pluie sur le flanc est, des ondées à Grenoble, Annecy, Embrun, Nice depuis ce matin. Et puis, tout ceci va s'échapper. La Franche-Comté, les vallées alpines qui ont aussi un petit peu de pluie vont voir ces pluies s'échapper vers l'est provisoirement. Température 12 à Paris aujourd'hui, 13 à Angers, Lille, Belfort et Lyon, 14 à Rennes et Nantes, 15 à Limoges, 16 à Toulouse et 19 à Marseille.
Merci Laurent Cabrol. Il y a quelques instants, on parlait de ce gel qui pourrait nous aider à mieux cicatriser. Et l'une de nos auditrices, Marie-France, nous dit, est-ce que ça marche pour les cicatrices du cœur?
C'est joli.
Mais oui, ça marche. La voix de Céline Kallmann arrive, ne vous inquiétez pas.
Vos messages avec le hashtag Europe 1. Nous sommes le jeudi 8 novembre et il est 7h30.
7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Le journal avec vous, Céline Kallmann, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. On pourrait presque se croire dans la série House of Cards, mais tout ceci est bien réel. Donald Trump vient de retirer son accréditation à un journaliste de CNN qui couvre la Maison Blanche, du jamais vu au pays de la liberté absolue de la presse qui est garanti dans le premier amendement de la Constitution américaine. Une décision après une violente altercation entre les deux hommes en pleine conférence de presse, sous les yeux médusés des autres reporters. Écoutez la scène.
Monsieur le Président, êtes-vous inquiet?
Ça suffit, assez. Assez. Posez le micro.
Monsieur le Président, êtes-vous inquiet de possibles inculpations?
Je vais vous dire, CNN devrait avoir honte de vous avoir comme employé. Vous êtes une personne grossière et épouvantable. Vous ne devriez pas travailler pour CNN.
Échange très tendu donc hier entre Donald Trump et ce journaliste de CNN à qui son accréditation a donc été retirée. La Maison Blanche justifie cette décision en affirmant que le reporter a levé la main sur la jeune femme qui tentait de lui arracher le micro. Je vous invite à regarder les images sur europe1.fr. Donald Trump, qui au lendemain des midterms a pris une autre décision majeure, celle de limoger son ministre de la Justice, pourtant ardent défenseur de sa politique, mais qui ne l'a pas soutenu dans l'enquête russe. Et puis la chrétienne Asia Bibi, libérée cette nuit au Pakistan après des années de prison pour blasphème, elle se trouve désormais dans un endroit sûr, toujours dans son pays.
Le Secours catholique publie aujourd'hui son rapport annuel sur la pauvreté.
Et ce qui ressort cette année, c'est que les femmes sont de plus en plus nombreuses. Des femmes seules ou des mères isolées, comme Eliane, assistante maternelle de 55 ans. Elle vit avec son fils de 11 ans. Après un cancer du sein, elle a vu ses revenus mensuels divisés par 3. Aujourd'hui, pour vivre, elle n'a que 442 euros.
Quand j'ai vu que vraiment j'étais dans la panade, je vous dis vraiment mon sentiment, bah j'ai dit j'ouvre la fenêtre et je tombe du 4e étage. Puis après, faut recommencer à se battre, quoi. Il faut trouver de l'argent tout le temps, faut trouver de l'argent. J'ai réussi à faire enlever la taxe d'habitation. J'ai dit stop, je paye plus. J'ai un gamin de 11 ans qui marche avec une seule paire de baskets depuis la rentrée d'école, qui me demande pas d'autre. Là, il pleut, la basket, elle prend de l'eau. Il a pas de manteau de pluie, donc il s'en fout. Il a fait comme les jeunes, il a mis plein de gilets par-dessus, il a mis son chapeau et tout, et voilà quoi. En alimentaire, j'ai eu de la chance. Là, je viens de faire des commissions à l'épicerie solidaire. J'en ai eu pour 4 euros. Et j'ai des courses pour pratiquement 3 semaines. J'ai espoir que les grands moments de fatigue s'en aillent parce que je voudrais reprendre le travail pour pouvoir recommencer à vivre, pour pouvoir entrer dans la société. J'ai la patate, on va y arriver, quoi.
Un propos recueilli par Ève Roger pour Europe 1. C'est un fléau qui touche 700 000 enfants en France. Le harcèlement scolaire exacerbé par les réseaux sociaux, les téléphones portables, journée de sensibilisation ce jeudi. L'occasion aussi pour nous de vous parler d'un autre phénomène aux conséquences dramatiques, le Momo Challenge, une application, un jeu qui menace ses participants, les incitant à commettre des actes dangereux. Il y a 3 semaines, à la Guerche de Bretagne, près de Rennes, René Gatineau a retrouvé son fils de 14 ans pendu dans sa chambre. Il a décidé de porter plainte contre YouTube notamment et contre l'État pour mise en danger de la vie d'autrui.
Il s'est fait piéger, oui, ça c'est sûr. Il a fait des recherches glauques qui correspondent à des défis de ce Momo Challenge. Nous, on a pu constater qu'il y a des forums qui parlent de suicide. On leur donne des méthodes pour se suicider. Comment se paralyser les jambes, écouter de la musique de dépression, comment se suicider, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il faut absolument que ça cesse, et puis surtout, il faut faire une alerte, quoi. Parce que moi, je veux pas qu'un autre parent, il se retrouve comme moi, à arriver le matin, à décrocher son fils. Moi, on m'a bien dit, il fallait une victime pour peut-être que ça bouge, parce que ça n'a toujours pas bougé. Moi, ce que je veux dire, c'est aux parents, dès qu'ils rentrent chez eux ce soir, qu'ils prennent les smartphones, qu'ils prennent tout, tant qu'à s'engueuler avec des ados et tout, mais qu'ils vérifient dans leur portable qu'est-ce qu'ils ont, parce qu'il faut pour voir ce qui se passe dessus, quoi. C'est hallucinant. Je suis en colère, j'ai de la haine, et je lâcherai pas.
René Gatineau, joint par Jean-Gabriel Bourgeois.
Jean-Claude Godin va s'exprimer tout à l'heure à 11h, 3 jours après l'effondrement de 2 immeubles à Marseille.
Oui, pour l'heure, 6 corps ont été sortis des décombres. Les opérations de recherche sont suspendues pour permettre de démolir 2 nouveaux bâtiments très fragilisés. Les juges des enfants de Bobigny révoltés face à la dégradation des dispositifs de protection de l'enfance. En Seine-Saint-Denis, 900 familles sont aujourd'hui dans l'attente de mesures censées protéger les enfants vulnérables. Écoutez Claire Pochère.
Cela peut aller de cas de négligence à des femmes qui se sont séparées d'un conjoint violent et qui s'efforcent de protéger au mieux leurs enfants, comme un adolescent dont les parents vont saisir le juge des enfants parce qu'ils sont complètement démunis. Dans ces cas-là, nous pouvons ordonner des mesures d'assistance éducative en milieu ouvert. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a des listes d'attente jusqu'à 1 an et demi, donc faute de moyens pour ces éducateurs. Ce sont des enfants qu'on laisse clairement en danger. Il y a effectivement des adolescents de 16 ans ou 16 ans et demi pour lesquels nous avons tenu des audiences, prononcé des mesures. Et bien en fait, ils ne seront jamais suivis puisque ensuite ils seront majeurs.
La juge Claire Pochère au micro Europe 1 de Salomé Legrand. La mise au point de l'Élysée sur l'hommage au maréchal Pétain. Emmanuel Macron avait tenu des propos qui pouvaient laisser penser que le vainqueur de Verdun pouvait être honoré samedi au même titre que les autres chefs militaires. Précision, ce ne sera pas le cas. Seuls les maréchaux le seront.
Emmanuel Macron qui poursuit aujourd'hui son voyage pour commémorer le centenaire de la Grande Guerre.
Il sera à Maubeuge ou encore à Notre-Dame de Lorette et demain le chef de l'État va découvrir comme tous les Français le visage du soldat inconnu, un visage de synthèse à partir de 30 000 photos de soldats qui ont été rassemblées, visage dévoilé à l'historial de la Grande Guerre à Péronne dans les Hauts-de-France. Écoutez son directeur Hervé François.
Les photos sont scannées, pas nécessairement de face, parfois de trois quarts, et l'algorithme avec l'intelligence artificielle réussit à reconstituer les visages et surtout à constituer un portrait robot qui symbolise l'humanité en guerre. Et ce visage est terriblement émouvant, si j'ose dire. Il est moustachu, il est assez doux. Ce regard, il est pénétrant et en même temps apaisé. On nous regarde avec une certaine distance et en même temps avec une grande profondeur. 100 ans après, sont des visages quelque part oubliés, puisque les familles directes ne sont plus là. Et puis c'est un projet de longue haleine qui montre que le centenaire ne s'arrête pas, que le devoir de mémoire et l'enjeu d'histoire va continuer.
Hervé François au micro de l'Or d'Autriche.
C'était le journal de Céline Kalman. Bonne journée à tous. N'hésitez pas à réagir sur le répondeur de la matinale et sur les réseaux sociaux aussi avec le hashtag
Europe 1. Europe 1. Et il est 7h37, Nikos.
Jean-Michel Apathy.
Bonjour Nikos.
Le président de la République en déplacement dans l'Est pour son itinérance mémorielle a eu hier dans un bain de foule une petite phrase sur Philippe Pétain qui n'a pas manqué de déclencher la polémique.
Non, parce que chez nous, quand on parle de Philippe Pétain, on voit que les braises sont toujours vives et chaudes et donc la polémique a suivi une polémique assez stupide, il faut bien le dire.
Jean-Michel Apathy sur Europe 1, à tout de suite.
Il est 7h40, Nikos Aliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Et cette petite phrase qui a fait du bruit et qui a monopolisé les médias depuis hier, quand le président a qualifié Philippe Pétain de grand soldat de 14-18. Et c'est parti dans tous les sens. Après, Jean-Michel Apathy, qu'est-ce qui déclenche vraiment la polémique?
Ce qui déclenche la polémique, ce sont les propos d'Emmanuel Macron qui avaient leur part d'ambiguïté. Alors, Emmanuel Macron dit par exemple, Philippe Pétain a été un grand soldat de la Première Guerre mondiale. C'est vrai, c'est un fait objectif. Et Philippe Pétain a aussi été, c'est le second fait objectif, un traître pendant la Seconde Guerre mondiale. Traître à sa patrie puisqu'il a collaboré avec les nazis. Et traître aux valeurs républicaines puisqu'il a soutenu les lois antisémites de l'État français qu'il présidait. Emmanuel Macron dit hier que Philippe Pétain a fait des choix funestes et le mot est juste. En fait, Emmanuel Macron hier a eu raison sur toute la ligne. Mais il y a malgré tout une polémique. Pourquoi ? Parce que samedi 10 novembre est organisé aux Invalides un hommage républicain aux maréchaux français vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Et l'état-major d'aujourd'hui, de l'armée française, qui a organisé cet hommage, avait prévu dans un premier temps d'y associer le maréchal Pétain. Il y a des documents qui datent de début septembre qui attestent cette volonté de l'état-major. Et ça crée un débat au sein de l'armée que l'Élysée va trancher, notamment par l'intermédiaire du chef d'état-major particulier du président de la République. Philippe Pétain sera écarté de l'hommage national de samedi prochain. Et Florence Parly, ministre des armées, a attesté de la mise à l'écart de Philippe Pétain le 30 octobre dernier. Seulement hier, Emmanuel Macron s'est exprimé de manière ambiguë sur le maréchal Pétain parce que il a évoqué un hommage au maréchal. Et certains de ceux qui connaissaient cet arrière-plan du débat de l'organisation de la cérémonie des Invalides samedi ont pensé que le président de la République voulait ou avait réintroduit le maréchal Pétain dans l'hommage national qui aura lieu donc aux Invalides. Et vérification faite, et deux fois plutôt qu'une hier soir, il apparaît bien que non, le maréchal Pétain ne sera pas associé à cet hommage national. D'accord. Philippe Pétain demeure un paria de la nation, et c'est très bien, évidemment, qu'il en soit ainsi. Mais cette polémique nous apprend deux choses. D'abord que le rapport à l'histoire demeure toujours très compliqué dans ce pays.
On n'a pas tout résolu.
Non. Ce qui dit un trouble identitaire, et c'est par exemple un trouble identitaire et qui a une application contemporaine sur l'Europe, par exemple. Est-ce qu'il faut poursuivre le dessin européen ou revenir à une identité nationale plus marquée? D'autre part, la communication d'Emmanuel Macron est trop souvent ambiguë, trop souvent approximative. Teintée aussi, c'est assez net hier, de petites formes provocatrices qui peuvent paralyser, parasiter l'action de l'exécutif. Si un jour on écrit un traité du masochisme, il faudra faire une entrée Emmanuel Macron, parce qu'il y a beaucoup de cas qui illustrent cela. Et puis la troisième chose, c'est que tout de même, nous avons des débats importants et difficiles devant nous. Et si on pouvait éviter toutes ces polémiques qui n'ont en fait aucun contenu, franchement, on s'en porterait beaucoup mieux.
Jean-Michel Apathy, analyse, explication et un peu de psychologie. C'est tous les jours à 7h40. À présent, c'est vous qui le dites. Vous réagissez à l'actualité au 39-21. 3921 et cette polémique autour de Philippe Pétain vous a énormément fait réagir, évidemment. Écoutons Françoise et les profs d'histoire géo en Gironde. Mais d'abord, voici Louis. Il habite à Nancy.
Ni lui, ni aucun des maréchaux de l'armée française de la Première Guerre mondiale ne mérite d'être érigé en héros. Ce sont des traîtres à leur peuple qui, pour la plupart du temps, ont envoyé des assauts suicidaires qui n'avaient aucune valeur stratégique, sinon empêcher les troupes de se mutiner. Tous les maréchaux de France ont commis littéralement des crimes de guerre.
Pétain, bien sûr, la Seconde Guerre mondiale, la France de Vichy. On ne peut même rien dire là-dessus, c'est une des périodes les plus noires de notre histoire. Après, attention malgré tout de ne pas lire l'histoire à l'envers. Pensons aux soldats, à ceux qui étaient à Verdun, à ceux qui sont morts après la guerre. Eux n'ont pas connu la Seconde Guerre, ils n'ont pas connu le Pétain donc de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien pour eux, Pétain a certainement compté à ce moment-là.
C'est vous qui le dites, c'est tous les matins à 7h42. Réagissez à l'actualité, à ce qui vous touche, à ce qui vous interpelle. Pour ça, un numéro, le 3921. Laissez-nous votre message sur le répondeur d'Europe 1. Europe 1, il est 7h44.
Au-delà de la grogne, des coups de gueule, de la colère, on va tenter de prendre un peu de hauteur. Dans un instant, je reçois un philosophe, Frédéric Lenoir. Il publie un livre sur la méditation. On va essayer de décrypter l'actualité avec un homme de sagesse. A tout de suite.
Il est 7h45, les principaux titres à retenir ce matin, Nico Saliagas.
À Marseille, les secours ont suspendu pendant 24 heures les recherches engagées pour retrouver d'éventuelles victimes ou survivants sous les décombres des immeubles qui se sont effondrés lundi. Il faut déconstruire deux bâtiments voisins qui menacent de s'effondrer à leur tour. Pour l'instant, le bilan s'élève à 6 morts. La chrétienne Asia Bibi, libérée cette nuit, se trouve toujours au Pakistan, dans un endroit sûr. Sa libération a provoqué la fureur des milieux islamistes radicaux qui ont annoncé une grande manifestation à Karachi. Et puis à Lyon, l'équipe de Lyon a encaissé un but à la dernière minute qui le prive d'une victoire décisive face à Hoffenheim, de partout lors de la quatrième journée de la Ligue des Champions. L'OL se retrouve donc à la deuxième place du groupe F.
Nico Saliagas, vous recevez ce matin le philosophe et écrivain Frédéric Lenoir qui publie un nouvel ouvrage, Méditer à cœur ouvert, chez Nil Éditions.
Bonjour Frédéric Lenoir.
Bonjour.
Vous êtes un spécialiste du bonheur, vous écrivez des livres, vous faites des conférences dans le monde entier. Et un sondage BVA l'an dernier nous a dit que 50% des Français se disent heureux, 7% malheureux et 42% ne savent pas. Ils ne savent pas s'ils sont heureux ou pas, c'est à eux que vous vous adressez ?
Alors, je pense que je m'adresse un peu à tout le monde, mais le sondage, en fait, est trop clivant. C'est-à-dire, quand vous posez la question aux gens, est-ce que vous êtes heureux ou est-ce que vous êtes malheureux, on est tous un peu heureux, un peu malheureux. C'est-à-dire qu'il y a des moments de bonheur dans la vie, il y a des moments de malheur. Et donc, le sondage devrait poser la question, est-ce que vous êtes très heureux, plutôt heureux, plus de nuances. Et j'ai vu d'autres sondages qui ont plus de nuances. 80% des Français se disent heureux, très heureux ou plutôt heureux. Donc, je dirais qu'on est un peuple qui est plutôt heureux, mais le paradoxe, c'est qu'on est malheureux collectivement. C'est-à-dire qu'individuellement, ça va plutôt bien, avec des moments difficile évidemment, mais collectivement on est un des peuples qui est le plus pessimiste de la Terre et un des peuples qui se dit finalement que tout va mal dans notre pays alors qu'on est quand même un des pays que les plus enviés du monde entier, on a des pays les plus visités, on a des pays où il y a des lois sociales, du chômage, de l'assurance maladie que ça n'existe pas dans beaucoup d'autres pays et finalement il y a cette espèce de masochisme collectif où on se flagelle alors qu'on aurait beaucoup de choses qui pourraient nous rendre fiers d'être français.
C'est un mot qui revient décidément ce matin dans la matinale, Jean-Michel Apathy parlait de ce masochisme à propos de la politique.
C'est peut-être ça qui m'y a fait penser.
Alors, ces derniers temps, on sent un mécontentement quand même. Il est clairement exprimé quotidiennement dans les médias, même dans la rue, la colère, la grogne, les coups de gueule. Est-ce que, Frédéric Lenoir, c'est symptomatique de notre culture française ou c'est partout pareil ?
Non, c'est assez symptomatique de notre culture française. C'est vrai qu'on est un peuple critique. Ça date de Descartes et Voltaire. C'est notre histoire, c'est notre culture. On a un esprit très critique. Et puis, on voit plutôt ce qui va mal que ce qui va bien. Vous allez aux États-Unis, tout le monde veut dire tout va bien, même s'il y a plein de choses qui vont pas bien.
Il y a des coups de gueule en ce moment. Regardez comment Donald Trump a sorti un journaliste.
C'est vrai, il y a des coups de gueule, mais globalement les gens...
C'est plus radical.
Alors parce qu'on a avec Trump quelque chose de très clivant. Si vous voulez, on a un personnage extrêmement clivant, ce qui n'était pas arrivé quand même depuis un certain temps.
Il y en a un peu partout, il y en a au Brésil aussi.
C'est vrai.
Vous sentez que c'est plus radicalisé.
Mais en France, c'est-à-dire que c'est un peu systématique. C'est-à-dire qu'en France, même s'il n'y a pas de drame, regardez la polémique sur Pétain, j'adhère tout à fait à ce que disait Jean-Michel Apathy. Il n'y a pas de quoi faire une énorme polémique. Et on trouve toujours matière à polémiquer.
Mais est-ce que pour autant il y a prescription quand on parle d'éthique ? Et là, c'est le philosophe qui nous répond.
C'est-à-dire
à propos du passé, par exemple.
Non, je évidemment qu'il n'y a pas prescription. Mais je pense qu'il faut plutôt se focaliser sur les problèmes du présent et essayer de construire un avenir meilleur qu'en permanence polémiquer sur le passé.
Alors, vous êtes aussi très attaché à la question animale. L'association L214 a récemment publié de nouvelles images prises dans un abattoir bio hein, qui a depuis fermé. Comment vous réagissez face à de telles images ?
Eh ben ça c'est effectivement une chose qui me préoccupe beaucoup parce que on ne sait pas ce qui se passe dans la plupart des abattoirs, on ne sait pas ce qui se passe dans les élevages industriels intensifs, on peut pas y pénétrer, c'est aussi bien gardé que des centrales nucléaires et lorsqu'on voit des vidéos qui sont faites évidemment clandestinement, c'est épouvantable. C'est-à-dire qu'il y a une maltraitance des animaux, il y a des chaînes d'abattage qui vont beaucoup trop vite, donc on ne tient pas compte des règlements. Les règlements, c'est qu'on étourdit systématiquement un animal, on s'aperçoit que c'est pas fait du tout systématiquement.
Mais ça en dit long aussi sur notre rapport à l'animal.
Alors ça en dit long. En fait, on ne veut pas savoir ce qu'on mange. C'est-à-dire qu'on veut bien manger de la viande et du poisson, mais on ne veut pas savoir ce qu'il y a derrière.
Ne pas savoir, pour un philosophe, c'est ne pas vouloir voir.
Eh ben, exactement. Ne pas savoir, pour un philosophe, c'est ne pas vouloir voir. C'est effectivement être dans une sorte de déni dans lequel on préfère manger avec bonne conscience. Alors que si on savait, eh ben, peut-être qu'on mangerait, ce qui est mon cas. Moi, je mange beaucoup moins de viande parce que j'ai pas envie de cautionner tout ça. Donc, je pense qu'il y a un énorme problème. C'est que, par exemple, on a refusé la vidéosurveillance dans les abattoirs, alors que c'était une promesse de Macron. J'étais très déçu, par exemple, qu'il n'ait pas tenu cette promesse, parce que ça éviterait tout un certain nombre de dérives, et on voit qu'aujourd'hui les lobbies l'emportent surtout. C'est-à-dire que les lobbies des chasseurs l'emportent.
Nicolas Hulot qui démissionne.
Qui démissionne à cause de tout ça. Voilà, moi je connais très bien Nicolas Hulot. On travaillait ensemble à un projet d'une grande loi sur la condition animale. Et ben effectivement, les lobbies l'ont emporté sur l'éthique.
Dernière question. J'aurais voulu avoir 2 heures pour que vous me rendiez la copie à la fin, mais sérieusement, vous publiez un ouvrage, Méditer à cœur ouvert. Est-ce que la méditation a sa place dans notre société aujourd'hui ? Est-ce qu'on a le temps ?
Plus que jamais. C'est justement.
Pourquoi ?
Mais justement, c'est justement parce qu'on n'a pas assez de temps qu'il faut prendre un tout petit peu de temps pour s'intérioriser, pour avoir des moments de recueillement.
Respirer,
prendre
d'abord.
Des temps de respiration intérieure dans lequel, et c'est ce que j'explique dans cet ouvrage, il ne s'agit pas de se mettre en lotus tous les matins, etc. Il s'agit dans la journée d'avoir des petit moment, et j'explique comment on peut le faire très simplement, où on prend un temps de respiration, on revient à son corps, on réunifie son cœur, son esprit et son corps pour ne plus être en permanence dans le mental, les pensées, les émotions. C'est tout ça qui nous rend malheureux. Le bonheur, ça vient beaucoup de l'attention, de la qualité de présence qu'on a à soi, qu'on a au monde, qu'on a aux autres. On regarde un rayon de soleil dans la rue, on parle à un ami, on est présent. Si on est présent attentif, on a beaucoup plus de chances d'être heureux et la méditation nous y aide beaucoup.
Merci Frédéric Lenoir d'avoir méditer pendant 4 petites minutes avec nous sur notre antenne, mais ce n'est pas le temps qui compte dans sa longueur, mais l'instant dans son intensité. Vous publiez Méditer à cœur ouvert chez Nil Éditions et la sagesse expliquée à ceux qui la cherchent aux éditions du Seuil. Si vous êtes dans les embouteillages, garez-vous et méditez. C'est le message du jour. Merci beaucoup.
Merci
et
Nicolas.
Continuez à réagir au 3921 ou avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Il est 7h52. Nicolas.
Ma chère Céline
Dauphine.
Oui. C'est un paradoxe à la française. Nous sommes les champions du train privé, mais seulement à l'étranger. Alors, ça a l'air un peu curieux, mais Axel de Tarlé nous explique tout dans le Zoom Echo, juste après ça.
Il est 7h55, l'heure du Zoom Echo, Nico Saliagas avec Axel de Tarlé.
Et les Français seraient les champions, champions des trains privés à l'étranger. Expliquez-moi, j'ai pas l'image.
Eh ben oui, c'est le grand paradoxe. C'est qu'en France, nous, on a le monopole. Donc, la SNCF est toute seule. Mais à l'étranger, il n'y a pas de monopole. Et là, qui fait un carton pour faire rouler des trains privés ? Les Français. Dernier exemple en date, la ville de Hanovre en Allemagne vient de choisir le français Transdev, donc plutôt que la Deutsche Bahn, la SNCF allemande, pour faire rouler ses trains régionaux. C'est un contrat de 12 ans. Transdev, le français, qui confirme ainsi son statut de premier opérateur de trains privés en Allemagne. Et puis il y a un autre français qui fait un carton, c'est Keolis, qui fait rouler un train sur 3 en Grande-Bretagne. Keolis qui vient encore de gagner toutes les lignes de train au Pays de Galles, mais qui fait aussi rouler des trains aux États-Unis, à Washington, à Boston. Ce sont des trains Keolis. Alors, comble de l'ironie, vous n'allez pas le croire. Vous savez à qui appartient Keolis, ce champion français des trains privés ?
Allez-y.
Keolis appartient à la SNCF, oui, la SNCF, qui elle reste en monopole chez elle.
Mais quand est-ce qu'on verra en France des opérateurs de trains privés ?
Alors figurez-vous, très vite, dans un an tout pile, à partir de décembre 2019, les régions pourront enfin lancer les appels d'offres et confier les TER, donc non plus à la SNCF, mais à des opérateurs privés. Alors autant vous dire que Transdev est sur les starting blocks, prêt à faire rouler des TER dans toutes les régions de France. En revanche, vous comprendrez que la situation est bien plus embarrassante pour Keolis, qui va donc se retrouver dans les régions en concurrence avec la SNCF,
avec elle-même,
avec son actionnaire, ouais, son patron. Donc on va voir ce que ça donne. Mais écoutez, quand même, vu le succès de nos opérateurs français à l'étranger pour faire rouler des trains, on peut penser que cette ouverture à la concurrence devrait plutôt bien se passer dans les régions.
Axel de Tarlé, le Zoom Echo sur Europe
1. Il est 7h57, l'heure de la petite histoire du jour, Nikos.
Vous savez quoi ? C'est tous les jours, juste avant 8h, avec vous, Jean-Philippe Ballas. Et ce matin, vous nous racontez l'histoire du pianiste qui jouait à l'oreille des éléphants. C'est ouais. Joli.
Vous savez quoi ? Il y a des types étonnants quand même. Paul Barton, par exemple, pianiste britannique d'une cinquantaine d'années, parti s'installer en Thaïlande et qui découvre un jour dans la jungle une réserve, un sanctuaire pour les éléphants, de vieux éléphants. Certains sont aveugles, craintifs, amochés. Paul Barton est ému, évidemment, il les observe et il se dit « Tiens, si je leur jouais du Bach ?» Et là, il faut imaginer la scène, les amis. Paul Barton, en t-shirt, bermuda et sandales, à la cool, il s'est donc débrouillé pour transporter un piano droit, laqué noir, au beau milieu de la jungle thaïlandaise. Tout près, il y a un éléphant qui mâchouille quelques branches et qui s'arrête soudain. Il s'approche du piano, l'éléphant, il va rester ainsi immobile pendant plusieurs minutes, visiblement captivé par ce prélude. Et depuis, Paul Barton poste régulièrement des vidéos de pachydermes mélomanes. Alors, les uns semblent préférer Chopin, d'autres Satie, ça dépend. Parfois, ils balancent leur trompe aussi doucement, ou alors ils la posent carrément sur le piano. C'est assez fascinant à regarder. On pense aussi, bien sûr, à la disparition des animaux sauvages. On en parle beaucoup dans l'actualité ces derniers temps. Un éléphant tué toutes les 20 minutes. Vous savez quoi ? Ce serait bien que les braconniers aussi se mettent à écouter du Bach de temps en temps.
Jean-Philippe Ballas, c'est la petite histoire qui nous transporte. Et c'est tous les jours, juste avant 8h. Merci.
À suivre le journal de David Doucan.
La météo avec Rénoval, le réseau national de véranda et abri de piscine.
Mais tout de suite la météo avec Laurent Cabrol, Nikos.
Laurent Cabrol, ouais. C'est la voix qui nous transporte.
Oui, c'est vrai. Et en prélude aux températures de l'après-midi, nous avons des températures basses ce matin quand même. 2 à Aurillac, 4 degrés à Bourges, 5 à Nantes, 7 à Paris, 8 à Lille, 9 à Besançon, 10 à Nancy et 11 à Strasbourg. Donc couvrez-vous, chers amis, parce que certes, il n'y a pas beaucoup de vent, mais enfin, il ne fait pas chaud, chaud. Et dans l'après-midi, ce sera entre 12 et 17 degrés. Là, ce sera quand même beaucoup plus agréable. Il y a pas mal de brume pour ceux qui circulent. Pas des brouillards très épais. Je pensais qu'ils étaient plus épais que ça. Non, je regarde, c'est entre 600 et 800 mètres de visibilité. Et puis, le ciel restera quand même, dans l'ensemble, relativement ensoleillé. Je dis relativement parce qu'il y aura toujours des passages nuageux, mais totalement inoffensifs, excepté dans l'Est, où nous avons encore un petit peu de pluie, mais elle s'échappe dans les régions Franche-Comté et Vallées Alpines. Voilà pour l'essentiel de cette journée. Demain, ça sera beaucoup plus agité, et surtout samedi. Samedi s'annonce vraiment comme une journée pas folichonne du tout, même franchement désagréable. Dimanche, ça ira un petit peu mieux. Et la semaine prochaine, c'est un peu comme aujourd'hui, vous voyez. Donc, pas trop mal.
Merci, Laurent Cabrol. On vous retrouve tout à l'heure pour un autre point météo sur Europe 1.
Excellent début de journée à tous. Nous sommes le jeudi 8 novembre. Et il est 8h. 7h-9h, votre matinale info, Nikos Aliagas.
Le journal avec le fringant David Doucan, bonjour.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Trois titres à la une ce matin, David.
Pas de PV, le 17 novembre, c'est l'appel d'un syndicat de police en solidarité avec les Gilets jaunes. La fronde s'étendrait-elle jusqu'aux forces de l'ordre ? On en parle dès le début de ce journal. C'est la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire. Des milliers d'enfants souffrent chaque année de brimades quotidiennes. Reportage bouleversant dans cette édition. Et puis, le jour d'après, aux États-Unis, Donald Trump est gonflé à bloc, figurez-vous. Il limoge un ministre, il fait la guerre à CNN et il n'a qu'une seule date en tête, 2020.
Europe 1.
Si même les policiers s'y mettent. Appel étonnant hier de la part d'Unité SGP Police FO. Ce syndicat de policiers demande à ses adhérents et aux forces de l'ordre en général de ne pas dresser de contravention le 17 novembre prochain. Vous le savez, c'est le jour choisi par le mouvement des Gilets jaunes pour bloquer le pays. Écoutez, Yves Lefebvre, c'est le patron de ce syndicat. Il assume totalement une solidarité avec les mécontents contre le gouvernement.
Pourquoi ? Parce que derrière chaque flic, il y a un citoyen, une citoyenne. Et que le flic est soumis à des horaires décalés qui lui imposent obligatoirement de venir au boulot, aux voitures. Donc la hausse des carburants impacte bien évidemment le pouvoir d'achat du flic. Zéro PV, alors entendons-nous bien, zéro PV. Les graves infractions du code de la route mettant en péril l'intégrité physique de nos concitoyens devront bien évidemment être sanctionnés. Mais à côté de ça, ce que l'on appelle communément le ventre mou des infractions au code de la route, nous, on appelle nos collègues à ne pas verbaliser ce genre de choses. Les stationnements, vous savez, tout ce qui est aujourd'hui, entre guillemets, une sacrée pompe à fric quand même pour le gouvernement.
Des policiers qui choisissent les infractions qu'il faut sanctionner ou ne pas sanctionner, voilà, qui complique encore davantage l'équation politique d'Emmanuel Macron. Jean-Rémy Baudot, vous suivez l'Élysée pour Europe 1, c'est bien sûr, Jean-Rémy, un mauvais symbole pour le président de la République.
Oui, David, d'une certaine manière, c'est l'autorité du chef de l'État qui est remise en question. Le président face à l'affront d'un syndicat policier qui remet en cause les décisions fiscales du gouvernement. Ceux qui doivent faire respecter la loi se dressent contre l'exécutif et reprennent des slogans qu'Emmanuel Macron entend d'ailleurs ici tous les jours depuis le début de la semaine dans ses bains de foule sur son itinérance. L'Élysée temporise, explique que les syndicats sont libres et se dégage de la question. Un très proche conseiller du président me dit ce matin que c'est à Christophe Castaner de répondre. Sauf que pour l'instant, silence radio. Le ministre de l'Intérieur face à un test sur sa poigne, sur sa capacité à se faire respecter. Mais attention, le contexte est particulier. Le deuxième syndicat de gardiens de la paix est en campagne et dans ce contexte, le premier flic de France ne veut probablement pas s'immiscer dans ce débat.
Merci Jean-Rémy pour ce décryptage. Vous continuez pour Europe 1 à suivre le périple du président de la République toute la semaine dans l'Est et dans le Nord du pays.
Et justement, tout à l'heure, Emmanuel Macron sera à Maubeuge où il visitera l'usine Renault.
Oui, parce que c'est l'autre aspect de cette semaine de déplacement. Emmanuel Macron veut attirer l'attention sur l'industrie française qui tient bon. Alors ce matin, il sera avec le patron de Renault, Carlos Ghosn, dans cette usine qui produit des Kangoo électriques. L'annonce d'1 milliard d'euros d'investissement, Nikos, dans l'électrique est justement prévue. Avouez que cela tombe bien en cette période où le gouvernement peine à faire passer la transition écologique. Les ouvriers de l'usine attendent donc la venue de leurs deux présidents avec impatience. Reportage Arthur Mbaché.
En attendant leur Kangoo, elles chargent 400 kilos chacune, les batteries tout au bout de la chaîne, sous la surveillance de Frédéric, le chef d'équipe.
Là, il la recharge en 30 minutes. Le plus long, c'est le temps de charge, parce qu'on est obligé d'attendre que la batterie soit chargée pour la monter sur la voiture.
D'ici seront sortis cette année 10 000 Kangoo électriques. C'est deux fois plus qu'il y a un an seulement. Normal, dit Frédéric.
Un plein, ça doit coûter 1 euro, un truc comme ça. 1 euro pour faire 270 km, ça vaut le coup. Hein.
À l'heure de la grogne.
Ouais, c'est clair.
Ce matin, ici, les deux présidents de la République et de Renault vont donner des détails sur le milliard d'euros investis par la marque dans l'électrique. Maubeuge sera concerné, l'usine modèle avec ses smartphones partout, son drone pour compter les colis dans les stocks ou ses exosquelettes qui soulagent le dos des ouvriers comme Romain.
C'est comme si j'allais m'asseoir dans mon canapé en fait, je suis vraiment à l'aise. Avant je devais me pencher vers l'avant ou fléchir les jambes, j'avais vraiment des courbatures au niveau du dos et des jambes en fin de journée. Avec cet appareil-là, je suis vraiment à l'aise.
L'usine est la plus compétitive de Renault en France. On gagne beaucoup de temps, on gagne beaucoup d'argent, nous dit son directeur. Le challenge, assure-t-il, c'est faire plus de voitures avec moins de monde. Maubeuge, Arthur Mbaché, Europe 1.
Emmanuel Macron va donc chez Renault et c'est Bruno Le Maire qui, lui, est ce matin au sein de l'acierie Ascoval. Les 281 salariés attendent toujours d'être fixés sur leur sort. Le gouvernement essaie de trouver un projet de reprise avant le 12 décembre prochain.
Beaucoup de sujets qui vont certainement faire réagir. Alexis Corbière, député France Insoumise à 8h15 au micro d'Audrey Crespo-Mara. Les recherches sont suspendues à Marseille.
Oui, deux personnes au moins sont pourtant toujours portées disparues, mais deux immeubles supplémentaires menacent de s'écrouler sur les secours. Les autorités prévoient de les démolir aujourd'hui. Je vous rappelle qu'à ce stade, le bilan s'élève à 6 morts. Le maire de la ville, Jean-Claude Gaudin, s'exprimera à 11h lors d'une conférence de presse. Et puis, Nikos, nous parlions à l'instant de Bruno Le Maire qui est au sein de la scierie Ascoval. Il vient de déclarer, je cite, « on va y arriver ».
C'est aujourd'hui la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire.
Oui, et ces journées de sensibilisation sont importantes. On parle d'un enfant sur 10 quotidiennement victime de brimades, voire de violences. Vous entendiez à cette heure le témoignage de cet élève de 7 ans qui évoque le suicide, l'attention terrible. L'attention des autorités se porte cette année en particulier sur un phénomène, le sexting. Des photos de jeunes filles dénudées partagées des milliers de fois sur Internet. C'est très rare que les victimes acceptent de se confier. Mais Virginie Salmen a recueilli le témoignage bouleversant d'Alexia qui s'était fait piéger lors d'une soirée.
C'est un réveillon du nouvel an chez des copains. Alexia a 17 ans, son petit ami l'attire dans une chambre, elle le suit.
À un moment de la soirée, nous avons voulu nous isoler, donc nous sommes montés à l'étage dans une pièce. J'ai fermé la clé et nous avons fait l'amour. Et puis à un moment, il y a des personnes qui ont ouvert la porte et qui nous ont pris en photo. Je me suis ruée vers eux pour les faire supprimer cette photo. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai vu cette photo sur Twitter. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ils avaient eu le temps de tout envoyer avant. J'ai dû retourner à l'école, en fait, après ça, et je me faisais siffler. me faisais aborder, je me faisais insulter, j'avais l'impression d'être une moins que rien en fait. J'avais l'impression que c'était moi la coupable alors qu'en soi j'étais qu'une victime.
Au moment où elle ferme la porte à clé, son petit ami lui dit qu'il va vérifier qu'elle est bien fermée. En fait, il la rouvre discrètement. Il est de mèche avec la bande qui a fait irruption dans la chambre. Alexia ne la prendra que 2 ans plus tard. Elle a immédiatement porté plainte. 3 d'entre eux ont été condamnés à des peines d'amende. L'auteur de la photo est toujours en attente de jugement. 3 ans plus tard, Alexia subit toujours les conséquences de cette soirée. Pour s'en sortir, elle a dû partir faire ses études à l'autre bout de la France et couper les ponts avec toutes ses fréquentations de l'époque.
Témoignage recueilli par Virginie Salmen pour Europe 1.
J'ai écouté le reportage, David, mais des amendes, franchement, on se demande parfois si les peines sont à la hauteur des actes.
Ouais, c'est vrai qu'on peut se poser la question parfois.
Europe 1, il est 8h07.
Je vous donne maintenant une bonne nouvelle. La chrétienne Asia Bibi a été libérée par les autorités pakistanaises. Elle est pour l'instant en lieu sûr au Pakistan. Son époux avait demandé l'asile à plusieurs pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni. La France s'est dite prête à accueillir Asia Bibi et sa famille. Je vous rappelle que cette chrétienne était emprisonnée depuis 8 ans dans le couloir de la mort pour blasphème contre l'islam. Elle avait été acquittée la semaine dernière avant d'être maintenue en prison sous la pression des islamistes.
Europe 1.
À suivre dans le journal, le jour d'après aux États-Unis, Donald Trump est en pleine forme. Vous allez le voir. À tout de suite.
Il est 8h09, votre matinale info, Nikos Aliagas.
Le journal avec David Doucan. Après les élections de mi-mandat aux États-Unis, Donald Trump a perdu la Chambre et cela n'entraîne chez lui aucun découragement apparemment.
Oui, il semble même au contraire être gonflé à bloc. Le président américain a bien l'intention de piéger les démocrates dans les 2 ans à venir. Il se servira notamment de la personnalité de la nouvelle leader de l'opposition, Nancy Pelosi. Explication et décryptage de notre correspondant à New York, Xavier Yvon.
Certes, Donald Trump a perdu la Chambre, mais il a gagné un épouvantail. Elle s'appelle Nancy Pelosi, démocrate chevronnée qui va prendre la tête de l'opposition. Elle est détestée de longue date par les conservateurs. Elle leur fait le même effet repoussoir qu'Hillary Clinton. Et c'est donc cet épouvantail que Donald Trump va pouvoir agiter pour justifier tout ce qui ira mal. Si l'économie se porte moins bien, si le Congrès n'arrive pas à légiférer, tout ça, ce sera de la faute des démocrates et donc de Nancy Pelosi, pas la sienne. Et s'ils arrivent à s'entendre pour passer des réformes, eh bien Donald Trump pourra s'en attribuer le mérite, vanter son esprit bipartisan. Et puis, le président américain pourra aussi se poser en victime d'une chasse aux sorcières si jamais les démocrates décident de lancer des enquêtes parlementaires sur sa fortune ou sur ses liens avec la Russie, à condition qu'il ne trouve rien de compromettant. Donald Trump pourrait donc arriver à la prochaine présidentielle en sauveur et en martyr qu'il faut réélire pour que, à nouveau, l'Amérique retrouve sa grandeur. La campagne 2020 a donc déjà commencé avec un favori, Donald Trump. Il reste 2 ans aux démocrates pour trouver la bonne stratégie et le bon candidat. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
Donald Trump qui a hier annoncé le limogeage de son ministre de la Justice, Jeff Sessions, à qui il reprochait de ne pas suffisamment le défendre dans le cadre de l'enquête russe.
Et Donald Trump qui s'en est pris à un journaliste de CNN, il a été illico presto expulsé de la Maison Blanche du jamais vu. Vincent Hervouette, dans moins de 2 minutes, nous explique dans quel contexte se trouve la présidence américaine et la presse aux États-Unis.
Et nous parlons maintenant des somnifères et des risques qu'ils peuvent entraîner. 1 Français sur 3 souffre de troubles du sommeil. 10 millions de nos concitoyens consomment des somnifères. Le magazine 60 millions de consommateurs consacre un dossier à ces médicaments et même ceux qui sont disponibles sans ordonnance ne peuvent être consommés à la légère. Les explications de notre spécialiste santé, Mélanie Gomez.
Si on prend d'abord les somnifères délivrés sur ordonnance, ce qu'il faut savoir, c'est que la dépendance arrive très vite. Après 4 semaines à peine, on devient physiquement accro et pour arrêter sans danger, le mieux, c'est de faire un sevrage avec un médecin. Ensuite, c'est peu connu, mais les somnifères comme le Stilnox ou le Zolpidem peuvent aussi avoir des effets surprenants sur le comportement, rendre certains patients très agressifs ou alors même les pousser au suicide. Enfin, du côté des somnifères sans ordonnance comme le Donormil ou le Fénergan, le problème majeur, c'est qu'on les considère à tort comme inoffensifs, explique Adeline Trégoué, de 60 millions de consommateurs.
Ces médicaments créent un phénomène d'accoutumance. Ça ne veut pas forcément dire dépendance. Progressivement, votre corps s'habitue à la substance active. Donc pour qu'elle soit active, il faut augmenter les doses. Et donc si vous augmentez les doses, en fait, vous augmentez forcément les effets secondaires. Ça peut être de la somnolence, y compris pendant la journée. Mais ça peut aller plus loin. C'est de la confusion, des troubles visuels, des troubles cardiaques.
Et avec ces somnifères en libre-service, les seniors surtout doivent être très vigilants, car ils peuvent aggraver des problèmes de rein ou de foie. Des traitements, on le rappelle, qu'il ne faut pas prendre plus de 5 jours. Or, une étude montre que 70% des patients en prennent depuis plus de 6 mois.
Les explications de Mélanie Gomez, la spécialiste santé d'Europe 1.
C'était le journal de David Doucan.
Bonne journée.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Et à 8h12, on retrouve Vincent Arouette pour un coup d'œil à l'international, Nikos.
On l'a dit dans ses éditions depuis ce matin, à Washington, au lendemain des midterms, la guerre des tranchées redouble entre la Maison-Blanche et les médias avec une première victime, ce journaliste de CNN qui s'est vu retirer son accréditation.
Oui, il s'appelle Jim Acosta et c'est son heure de gloire. Il a tenu tête hier à Donald Trump qui lui a dit qu'il était quelqu'un de grossier et d'affreux, ce qui vaut bien une décoration. Ensuite, le confrère de CNN a tardé à rendre le micro à la jeune femme du service de presse qui a fini par le lui arracher. Et la Maison-Blanche a prétexté qu'il avait mis les deux mains sur cette assistante pour le déclarer indésirable. Alors ça n'a rien d'évident quand on regarde la vidéo, mais le scandale vaut bien une citation à l'ordre du régiment. Donald Trump évite les conférences de presse, c'est la troisième seulement depuis son élection. Il n'aime pas trop et c'est normal parce qu'il y a des journalistes aux conférences de presse. Il a commencé, modeste comme toujours, en se félicitant de son immense succès électoral et en promettant une belle cohabitation avec la majorité démocrate à la Chambre des représentants. Et puis alors, Jim Acosta l'a interrogé sur la diabolisation des migrants et un autre sur les accointances avec les Russes en 2016. Bah ouais. Et alors évidemment, patatras.
C'est énervé. Et les médias se sont apparemment trompés en couvrant ces élections.
Ben, il n'y aura jamais de belle cohabitation. C'est comme la vague bleue que les médias annoncent toujours et qui jamais ne déferle. Hier, quelqu'un a volé aux médias la revanche attendue depuis 2 ans. Qui sait, peut-être encore un coup des Russes, décidément très fourbes. Et il faut alerter le procureur Mueller, lui dire qu'ils ont recommencé. Ceux qui prophétisaient, par exemple, un raz-de-marée démocrate au vu des files d'attente. CNN, à la veille du scrutin, qui prédisait l'effondrement de la popularité de Donald Trump, ceux qui caressent depuis 2 ans l'idée qu'il y aura enfin une procédure d'impeachment, eh bien tous ceux-là se sont trompés. Donald Trump est dans la meilleure situation possible pour préparer sa réélection et c'est bien son implication dans la campagne en Indiana, dans le Missouri, l'Arizona, la Floride, le Texas, le Tennessee qui a fait la différence alors que la presse le voudrait isolé et discrédité.
Le point de vue international, tous les matins dans la matinale avec Vincent Hervouette.
Europe 1, il est 8h15.
Dans moins de 2 minutes, l'interview politique d'Audrey Crespo-Mara. Qui est votre invité, ma chère Audrey?
Il est prof d'histoire, Nikos, mais pas sûr qu'il aurait rendu hommage à Pétain. Alexis Corbière, député porte-parole de la France Insoumise, sera mon invité.
A tout de suite.
Il est 8h18, Nikos Eliagas.
Votre invité, Audrey Crespo-Mara, est...
Alexis Corbière, député, porte-parole de la France Insoumise, bonjour.
Bonjour, André Crespo-Marin.
Vous qui avez été prof d'histoire, en 1966, pour le cinquantenaire de la bataille de Verdun, le général de Gaulle rendait hommage au maréchal Pétain.
La gloire qu'il avait acquise à Verdun 25 ans auparavant et qu'il garda en conduisant ensuite l'armée française à la victoire ne saurait être contestée ni méconnue par la patrie.
Ça vous choque qu'Emmanuel Macron s'aligne sur le général de Gaulle ?
Vous ne donnez pas la totalité de la déclaration du général de Gaulle parce qu'il termine par « la vieillesse est un naufrage » et il explique justement que ce qu'a fait le maréchal Pétain par la suite était indigne.
Mais il dit aussi ça, la gloire qu'il acquitte à Verdun ne saurait être contestée ni méconnue par la patrie. Donc est-ce que ça vous choque qu'Emmanuel Macron s'aligne sur le général de Gaulle ?
Je sais pas s'il s'aligne sur le général de Gaulle. Je pense que l'erreur que fait hier Emmanuel Macron, c'est de dire qu'il est légitime que l'on rende hommage au maréchal Pétain, et il se prend les pieds dans le tapis parce qu'il n'a pas bien compris, il ne maîtrise pas bien ce qui est en train d'avoir lieu. Il évoque, j'espère que ceux qui nous écoutent suivent, une cérémonie qui va avoir lieu aux Invalides
samedi prochain, pour où l'état-major français
rend hommage aux maréchaux qui sont aux Invalides, et le maréchal Pétain n'y est pas.
Il est
pourquoi
à l'île-Dieu.
Il n'y est pas? Parce que précisément en 1945, il est frappé d'une condamnation en raison de sa responsabilité.
Indignité nationale.
Il n'a plus de grade, il est dégradé, si je puis dire. Et il n'est pas enterré là, il est enterré à l'île-Dieu, etc. Donc il ne participera pas à cet hommage. Et quelque part, Emmanuel Macron se trompe. D'ailleurs, depuis, j'ai vu qu'il y a eu un rétro-pédalage de la part de l'Élysée, qui dit en vérité, il fallait bien comprendre ce qu'il disait, il ne parlait pas de ça. D'ailleurs, aux Invalides, il n'y aura pas d'hommage au maréchal Pétain. Donc il fait une erreur. Pourquoi il fait une erreur? Surtout, c'est qu'il fait un parcours mémoriel, qui ne peut pas être une errance mémorielle. Son parcours mémoriel, ça impose que sa parole, elle est symbolique. Sa parole, ce qu'elle dit, c'est pas un professeur d'histoire, il n'est pas l'ENA.
Mais
si ça commence par là, en nous expliquant qu'il est légitime que la République rende hommage à celui qui va tuer la République pendant 4 ans, parce que c'est ça le maréchal Pétain, qui va légiférer, mettre en place une législation antisémite, qui va supprimer toute référence républicaine, la devise ne va plus être liberté, égalité, fraternité, mais travail, famille, patrie. Cet homme, il n'est pas légitime que la République et celui qui la représente lui rendent hommage. Voilà, et donc il n'a pas à nous expliquer quel était dans l'histoire le rôle du maréchal Pétain. Sa parole, elle doit rester forte, compréhensible.
Mais vous avez entendu le général de Gaulle au sujet du maréchal Pétain, j'y reviens, la gloire qu'il acquit à Verdun ne saurait être contestée ni méconnue par la patrie. Est-ce que vous, est-ce que nous tous aujourd'hui, est-ce qu'on est mieux placé que le général de Gaulle pour donner des leçons d'histoire ?
Mais pendant là, le général de Gaulle ne donne... Écoutez-moi bien, le général de Gaulle, il est 11 ans après la Seconde Guerre mondiale, d'accord, 1966 ou une vingtaine d'années. Il y a peut-être encore des gens qui se réclament du pétainisme. Il y a peut-être un enjeu à essayer de réintégrer cette mémoire-là dans l'histoire nationale. Là, on est 100 ans plus tard. Un moment totalement différent où je ne crois pas qu'il y ait un enjeu à parler aux pétainistes français.
Quand vous répondez, oui. Est-ce que c'est le prof d'histoire qui parle ou est-ce que c'est l'opposant politique à Emmanuel Macron ?
Non, mais... Je répète, là, c'est pas l'opposant, c'est le citoyen qui dit que la parole du président de la République, elle doit avoir une portée symbolique particulière et elle ne peut pas commencer dans le système médiatique. Emmanuel Macron maîtrise le système médiatique par une parole qui dit qu'il est légitime que nous rendions hommage au maréchal Pétain, ce qui n'est même pas prévu. Donc ça devient complètement incompréhensible ce qu'il dit.
Jean-Luc Mélenchon, oui. Il a le plus grand respect pour François Mitterrand qui, pendant des années, a fleuri la tombe du maréchal Pétain à l'Île-Dieu. Donc, ce qu'il pardonne à Mitterrand, il ne veut pas en entendre parler, il le reproche à Emmanuel Macron.
Mais je ne crois pas que Jean-Luc Mélenchon approuve le fait qu'on fleurisse la tombe du maréchal Pétain.
Il a le plus grand respect pour Mitterrand.
Oui, mais enfin, je veux dire...
Il n'a jamais contesté ça, le fait qu'il fleurisse la tombe.
Je ne l'ai jamais vu approuver cela. Ça concerne après Jean-Luc Mélenchon et son rapport à François Mitterrand. Moi, je peux dire qu'à titre personnel, je pense que Jean-Luc Mélenchon partagera ça. Je ne pense pas qu'il faille fleurir la tombe du maréchal Pétain. Mais là encore, il y a des hommes qui, il y a une histoire où à une époque, peut-être certains jugeaient. J'ai vu que Georges Pompidou aussi l'avait fait à une époque, etc.
Ils l'ont tous fait. Hein.
Oui, mais pas de la même façon. Ils n'ont pas dit qu'il était légitime que nous rendions hommage au maréchal Pétain, parce que c'est ça que nous dit au point de départ Emmanuel Macron en disant qu'en raison de son rôle pendant la Première Guerre mondiale, qu'après on connaisse le rôle de ce militaire Pétain pendant la Première Guerre mondiale est une chose, mais c'est la grande confusion qu'il donne. C'est surtout ça que je conteste. Quand on parle qu'on est président de la République, on doit avoir une parole symboliquement maîtrisée, et c'était pas le cas hier.
Alexis Corbière, à propos des gilets jaunes qui veulent bloquer la France pour protester contre la hausse des prix des carburants, Jean-Luc Mélenchon a dit leur colère est juste. Si leur colère est juste, j'imagine que le 17 vous mettrez-vous aussi votre gilet jaune ?
Il y aura des insoumis dans la rue, sans doute le 17.
Mais à pas tout, c'est pas très clair hein, à la France.
C'est parce que les initiateurs de cet appel, c'est un appel citoyen, ne veulent pas de récupération politique et on respecte leur demande. Ils ont bien raison. D'ailleurs, c'est ce qui fait la force de cet appel. Commençons par l'essentiel. Il est légitime de protester contre cette hausse à partir du 1er janvier. C'est scandaleux. Dans beaucoup d'endroits, prendre la voiture, c'est pas un luxe.
Mais j'aimerais voir clair dans votre position, la position des insoumis. Je vous donne deux exemples. Oui, Clémentine Autain et à nos auditeurs surtout. Clémentine Autain refuse de défiler à l'appel de Marine Le Pen. Tandis que François Ruffin, malgré tout, a envie d'y aller. Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas clair non plus. Il soutient le blocage, en même temps, il refuse d'y participer. Les insoumis sont devenus les indécis.
Il n'y a pas à l'appel de Marine Le Pen, je ne sais pas qui a dit ça, c'est pas le 17 novembre. Je ne ferai pas ce cadeau à Emmanuel Macron de dire que le 17 novembre, c'est à l'appel de l'extrême droite et Marine Le Pen.
Non, mais ce qui vous gêne aux entournures, c'est que Marine Le Pen appelle à manifester. Manifeste.
Voilà, alors certains se disent, parce qu'il y a telle ou telle personne qui appelle à manifester, j'irai pas. Je respecte cette position. C'est possible que j'y sois. Je vais vous dire, moi, dans ma circonscription, s'il y a des rassemblements, c'est possible que j'aille faire un tour. Mais comme moi, en plus, j'ai un rôle particulier de porte-parole, je veux pas que ma présence donne l'impression que je cherche à récupérer la chose. Franchement.
Donc ça vous gêne d'être mélangé au Front National, au Rassemblement
National?
Non, c'est
pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que pour que ce mouvement s'épanouisse, il faut qu'à mon avis, il garde son côté un peu comme ça, citoyen, et que si j'y vais, ce sera de manière tout à fait discrète, si je puis dire. Et si à Bagnolet, à Montreuil, il y a des rassemblements, j'irai peut-être y faire un tour. Mais quoi qu'il en soit, que ceux qui se rassemblent sachent que je soutiens et je trouve légitime, et je ne ferai pas le cadeau au pouvoir en place de dire que parce que des gens d'extrême droite avec lesquels je suis en désaccord appellent aussi à manifester, il ne faut pas y aller. Ce qui est important, c'est de revenir à l'essentiel. Le gaz a augmenté, l'essence augmente. Et cette taxe, y compris la manière pseudo-écolo dans le gouvernement présent, est une honte parce que sur les milliards qui vont être gagnés, il n'y en a qu'un seul qui est consacré aujourd'hui à la transition écologique.
Alors vous parlez de taxes. Dans son programme pour la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, il avait lui-même fait de la sortie du diesel un impératif. Il voulait lui-même modifier la fiscalité sur le diesel. Oui. Et il moquait à l'époque les positions trop timorées d'Emmanuel Macron.
Jamais...
Est-ce que c'est très cohérent
non,
tout ça?
Parce que jamais nous n'avons considéré que pour les particuliers, il devait y avoir une augmentation. Jamais, c'est pas ça que nous avions dit. Nous avions que...
Dans un premier temps, c'était pour les flottes des entreprises.
c'est totalement
dans un premier temps.
Mais c'est totalement différent. Là, ce qui est scandaleux, c'est pour les particuliers. C'est que ça va frapper chaque individu qui va aller travailler. Après que nous ayons une fiscalité, notamment en direction des grands groupes, notamment en direction de l'aéronautique, des grandes flottes, ça c'est une autre discussion. Parce qu'effectivement, il faut sortir du diesel. C'est pas ça le sujet. Mais là, il y a aucune politique de transition écologique qui est mise en œuvre pour que les citoyens sortent du diesel. 60% je crois des voitures sont au diesel. Il y a pas longtemps, d'ailleurs,
le gouvernement. On ne taxe pas plus ceux qui polluent.
Et ceux qui polluent,
j'entends parler de diesel.
Oui, mais je crois que c'est l'équivalent d'un grand tanker. Lui, il consomme autant qu'un million de véhicules. Donc là, c'est le petit particulier qui est quand même à la fin de la chaîne de responsabilité. C'est lui qui a la pompe pour avoir son augmentation et sa perte du pouvoir d'achat. C'est ça qui est scandaleux. Donc on a bien raison de dire qu'il y a d'autres choix qui doivent être faits. Et après aussi des choix accompagnés d'une transition écologique réelle, ce que le gouvernement ne fait pas. Quoi qu'il en soit, c'est un impôt supplémentaire pour les Français. Et là, qui frappe particulièrement les milieux modestes, c'est scandaleux. Alors qu'on a bien vu que concernant les plus riches, il y avait une fiscalité allégée. Donc le 17 novembre, si c'est un succès, moi je dis bravo.
Merci Alexis Corbière.
Audrey Crespo-Mara pour l'interview politique.
Europe 1, il est 8h26.
À suivre, la revue de presse de David Abiker, des polémiques sous les décombres et 8h45, la revue de presse de Nicolas Canteloup. Bonne journée à tous.
La météo avec Rénoval, le réseau national de véranda et abris de piscine.
Et avec Laurent Cabron, Nikos.
En cette Saint-Geoffroy, mon cher.
Oui, j'ai pas bon. Oui. J'ai Geoffroy, vous aussi, non?
Ouais, on dit Geoffroy, pas mal. Pas mal. Geoffroy
du côté de Riac, du côté de Bourges et de Nantes, où il fait entre 2 et 5 degrés. 7 degrés à Paris en ce moment et 9 à Besançon. Mais. Il faut bien le dire, ce sera quand même la journée la plus agréable de la semaine. Les pluies, les quelques pluies que nous avions ce matin près des frontières de l'Est s'en vont. Elles vont vers la Suisse notamment. Tant mieux pour Mathieu Noël qui nous casse tous les matins.
Ah, il n'en peut plus de celui-là.
Eh bien, fait pour lui.
Virez-le, mec. Je plaisante.
Il y a quelques pluies autour de Nice, de Sisteron, de Dijon, de Gap, etc. Bon, mais dans l'ensemble, il faut bien le dire, c'est une journée agréable avec des brouillards qui vont se disperser, des températures entre 12 et 16 degrés. Voilà.
Merci, Lolo Cabrol. On vous retrouve juste avant 9h. Tout de suite, la revue de presse de David Aliker.
Europe 1. Avec les prix EDF Pulse, EDF soutient et met en lumière les startups qui inventent aujourd'hui le monde de demain. Pour la 5e édition des prix EDF Pulse, c'est Lancet qui a reçu le prix du jury dans la catégorie Smart Home.
Eh bien, c'est Lancet.
Lancet a inventé un radiateur intelligent qui stocke l'électricité pendant les heures creuses via une batterie pour la redistribuer lors des pics de consommation, avec à la clé une facture de chauffage réduite. Ce prix EDF Pulse 2018 va accélérer le développement du projet.
Le prix EDF Pulse a une valeur spéciale pour nous, c'est une validation de choix qui ont été faits chez nous et chez EDF, et on aime bien cette reconnaissance. La grande difficulté parfois d'une start-up, c'est non seulement d'être visible du grand public, mais surtout d'être comprise. Et tous les articles qu'il y a eu, toutes ces interviews, tout ça, ça participe aussi de la crédibilité de la start-up. C'est une validation par le jury d'EDF Pulse.
Pour mieux connaître les lauréats des prix EDF Pulse 2018, rendez-vous sur edf.fr/pulse et sur europe1.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Il est 8h30, tout de suite la revue de presse de David Abiker, Nikos.
Bonjour David.
Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. À la une de la presse ce matin, des polémiques sous les décombres. Sous les décombres de l'habitat indigne, en une de la Provence et de la Marseillaise, après le drame de la rue d'Aubagne. Polémiques sous les décombres de 14-18, avec la polémique Pétain, vous en avez parlé toute la matinée, qui s'invite en une du Dauphiné ou de Sud-Ouest notamment. Mais pour l'enterrer définitivement, la polémique Pétain, il faut peut-être lire, comme des grands, un hors-série historique de Mon quotidien pour la jeunesse, 10-14 ans. Le 11 novembre, expliqué aux enfants, qui traitent le sujet sans se prendre les pieds dans le képi du maréchal Pétain. Dans un chapitre clarissime consacré aux grands personnages de la guerre, une page pour Clémenceau, une page pour les maréchaux Joffre, Gallieni et Foch, une page pour les aviateurs, et une page pour le cas Pétain, bien mis sous cloche, bien isolé des autres. Pétain qui fut certes le vainqueur de Verdun, paragraphe premier, mais aussi Pétain qui fut l'artisan de la collaboration funeste avec l'Allemagne, paragraphe second. Pétain qui fut enfin jugé en 45 et emprisonné à vie, paragraphe troisième. C'est parfois simple de traiter des choses compliquées, il faut juste choisir les bons mots. Mon quotidien pour les enfants de 10 à 14 ans, et plus si nécessaire.
David, une autre polémique qui surgit des décombres à Marseille cette fois-ci.
Alors qu'hier, un immeuble s'effondrait à Charleville-Mézières, étape de l'itinérance du président de la République, alors que Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, s'exprimera à 11h sur le drame survenu lundi rue d'Aubagne, la Marseillaise et la Provence interrogent ce matin la chaîne des responsabilités. La Marseillaise cite en une un rapport d'experts daté du 19 octobre qui prévenait d'un péril grave et imminent. Un rapport encore dans la Provence de l'inspecteur général Nicole, il y a 3 ans, accablant le rapport sur l'habitat indigne qui pointait l'inertie des services, la lenteur des procédures, l'utilisation au ralenti des pouvoirs municipaux dans ce domaine. Pire, lorsqu'il tire la sonnette d'alarme, l'auteur est accusé d'avoir un parti pris. Les élus étaient dans le déni, dit-il aujourd'hui. Il faut aussi lire la Provence pour comprendre comment les uns et les autres se défilent, se passent la patate chaude ou se renvoient la balle, y compris à coups de rapport et de « je vous l'avais bien dit ». Quand ce n'est pas la faute des pouvoirs publics, c'est celle des syndics. Et quand ce n'est pas celle des syndics, c'est celle des propriétaires. Et si ce n'est pas la faute des propriétaires, c'est celle de la société locale d'aménagement. Pour qualifier la situation, la Provence parle, à juste titre, d'un laisser-aller fatal et collectif qui n'est pas sans rappeler, si je puis me permettre, le drame de Gênes, qui a renvoyé l'Italie à sa propre incurie administrative, à des circuits de responsabilité opaques et à ses bugs en série qui produisent les catastrophes, qui motivent ces audits, qui engendrent même de nouvelles réglementations, qui produiront parfois la même inertie.
Il est aussi question de bugs en série à la une de l'hebdomadaire L'Express.
C'est moins grave, 1 million de bugs depuis janvier à Pôle emploi, titre l'hebdomadaire qui raconte comment Astrid, qui n'en revient pas, quand l'agence Pôle emploi de Vannes lui réclame 621 euros qu'elle aurait indûment perçu alors qu'elle était chômeuse. Elle entame un recours, ça dure jusqu'à un message sur son répondeur qui lui annonce qu'elle avait bien droit au chômage, mais quelques jours plus tard, un nouveau courrier lui demande de rembourser. Selon l'Express, ce type de bug se répète près d'un million de fois. Les trop perçus auraient bondi de 36% en 2 ans au moment où le gouvernement exige des économies de l'assurance chômage. Sauf qu'il est compliqué de récupérer des petites sommes, compliqué de faire du sur-mesure quand on gère des milliers de chômeurs qui cumulent période de chômage, contrat court, CDI, revenus d'auto-entrepreneur. Ils sont 900 000 dans ce cas, rapporte l'Express, et sont au cœur de cette mutation du marché du travail qu'on appelle la flex-sécurité. Sauf que la flex-sécurité à mettre en œuvre au quotidien dans les entreprises et à Pôle emploi, c'est compliqué, c'est informatisé et ça tourne pas aussi bien que le business tient d'Amazon par exemple.
Amazon qui ouvre ses pages aux producteurs de produits alimentaires français.
Garantie sans polémique cette fois, sans bug et made in France, le géant du e-commerce met sa vitrine au service des producteurs français aujourd'hui même. 2000 produits d'exception, du foie gras à la confiture en passant par la boucherie artisanale, explique le Parisien aujourd'hui en France et les Échos, on vous l'annonçait hier sur Europe 1. Pour ces producteurs qui ont du retard par rapport à leurs voisins européens en matière de vente en ligne, c'est de la visibilité et du chiffre d'affaires en plus. Et pour Amazon, le géant de l'économie mondialisé et désincarné, c'est un sacré coup de com' à 2 jours du salon du Made in France. Et tandis que l'Observateur fait cette semaine sa une sur le polar de l'héritage Johnny, je vais terminer avec un produit Made in France qui marche très bien et qui ne fait pas polémique, c'est le cercueil de Johnny, le cercueil blanc. La Dépêche du Midi révèle que ce cercueil du rocker, fabriqué par les menuiseries ariégeoises, rencontre un vrai succès. Le fabricant n'a donné aucun chiffre par respect pour les familles. L'article ne dit pas non plus si le modèle est commandé par des fans ou par leurs proches.
J'en parlerai au diable si l'heure vient à sonner.
La revue de presse avec David Abiker, c'est aujourd'hui et demain à 8h30.
Europe 1, et il est 8h36.
À suivre, c'est votre journée. Il est de retour sur scène pour notre plus grand plaisir. Je sais que vous l'aimez beaucoup, Céline.
Je l'adore.
Maintenant ou Jamel, coup de fil à Jamel Debbouze. Et il y aura aussi Nicolas Canteloup à 8h45. Si vous partez travailler, si vous êtes à la maison, si vous nous écoutez comme ça par hasard, on est là pour vous jusqu'à 9h.
Il est 8h37. Les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nico Salégas.
Nous allons y arriver. Cette petite phrase lancée ce matin par Bruno Le Maire au syndicat d'Ascoval dans le Nord. Le ministre de l'économie se dit confiant sur une issue positive pour les 281 salariés de l'aciérie en redressement judiciaire. Quant à Emmanuel Macron, il est attendu ce matin sur le site de Renault à Maubeuge dans le Nord. Le constructeur doit confirmer l'investissement d'1 milliard d'euros dans les véhicules électriques. 2 nouveaux immeubles démolis aujourd'hui à Marseille par mesure de sécurité. En attendant, les recherches dans les décombres sont suspendues. Bilan provisoire, 6 morts.
Europe 1, Nico Salégas, c'est votre journée.
Tous les matins, on passe un coup de fil à celui ou celle qui est dans l'actualité. Et ce matin, c'est Jamel Debbouze qui est avec nous sur Europe 1. Bonjour Jamel.
Bonjour Nikos.
Vous êtes où ce matin?
Mais je suis
à quoi, 16 cm de mon lit. C'est pas naturel de réveiller les gens à 8h30. La dernière fois que je me suis réveillé à 8h30, j'étais en CE1.
Ah bah vous avez fait du chemin depuis, parce que hier vous étiez sur scène. Et c'est encore l'école quand on est sur scène, d'autant plus que ça faisait 6 ans que vous n'étiez pas monté pour retrouver les gens. C'est un examen, un spectacle.
Ah non, 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 c'est plutôt une récompense, un spectacle. C'est le feu d'artifice, quoi. On a bossé longtemps en amont, et puis le jour du spectacle, c'est la kermesse, c'est la fête, quoi, tu vois.
Et puis c'est surtout ce lien que vous avez depuis plusieurs années. Combien d'années de carrière, Jamel, avec le lien avec le public français, c'est depuis combien d'années?
Je ne peux pas compter, putain. Ça y est, maintenant, ça y est, je rentre dans la phase où il faut compter les années de carrière.
Ouais, vous êtes père de famille.
Eh ben, ça commence à faire, Nico, je sais pas, au moins 20 piges que je monte sur scène.
Vous vous rendez compte, 2 décennies. C'est vrai que vous parlez de tout sur scène, Donald Trump, vous parlez de l'actualité française, du FN, et puis de la transmission. Ça, c'est important pour vous, la transmission, Jamel.
Ouais, ça vient d'arriver, bizarrement, Nico, ce sujet-là. Dans
c'est
la
l'âge,
vie, tu vois.
C'est l'âge.
Bah ouais, c'est ça, c'est le temps qu'avance, j'ai des enfants maintenant, et il faut que je fasse attention à ce que je leur raconte, tu vois, parce que c'est très important, l'outil que tu leur laisses, après c'est indispensable pour qu'eux puissent vivre correctement, quoi, tu vois, transmettre et bien transmettre, c'est ce qui me paraît le plus important qu'on a à faire aujourd'hui, transmettre.
Ouais, vous dites, mon père est né dans une étable comme Jésus, moi, à Barbès, dans une cuisine, et vos enfants?
Ils sont nés à Neuilly, dans un iPad. Tu vois, et mon père, il est vraiment né dans une étable, hein. Il y avait des chèvres, des vaches, des poules. Le premier truc qu'il a dit dans sa vie, mon père, c'est et je peux pas te dire, on vient de très très loin, quoi.
C'était l'animalité qui était en lui que vous avez gardé. Vous avez quelque chose d'instinctif quand vous êtes sur scène. Survivre ses propres peurs. On ne sait pas où on sera quand on est artiste, j'imagine, dans 6 mois. Vous l'avez encore, cette incertitude?
Ah ouais, bien sûr. Non, c'est tellement extraordinaire ce qu'on vit qu'on a le sentiment de ne pas être à notre place. On a toujours vu nos grands frères, nos parents souffrir. Et on a le sentiment que la vie, c'est une souffrance, tu vois, perpétuelle.
C'est dans l'ADN, c'est dans l'ADN, ça. Hein,
ouais, c'est vrai, il y a une espèce de réflexe comme ça, des tropismes, qui fait qu'on trouve anormal le bonheur ou le kiff, tu vois.
Le kiff, ça se partage aussi, et ça se partage avec tous ceux qui vous suivent, notamment au-delà de la scène et de vos audiences ou de vos spectacles sur les réseaux sociaux. Vous avez 7,5 millions de personnes sur Twitter, 1 200 000 sur Instagram, 3 millions sur Facebook. Si on additionne tous ces gens qui vous suivent, vous avez un pays à vous tout seul. C'est quoi votre pays, Jamel? Vous êtes
mon
un
pays,
président.
Mon pays, c'est le rire.
Eh ben voilà.
Mon pays, c'est se retrouver avec des gens qu'on ne connaît pas et rire ensemble sur des sujets qui nous touchent, qui nous passionnent ou qui nous font peur, peu importe, mais rire ensemble, c'est ça mon pays.
Eh oui, c'est le plus beau des pays. C'est maintenant ou Jamel, votre spectacle du 11 au 29 décembre au Casino de Paris, également tourné dans toute la France. Vous serez notamment le 20 novembre à Roubaix. Merci et bonne journée, Jamel.
Merci, Nikos. À la classe, à très vite, j'espère.
Il est 8h41. À suivre, Nikos.
Il arrive, le poète de cette matinale, ou presque, 1001 voix, mais un seul, Nicolas Canteloup. Avec Julie, dans un instant, la revue de presque.
Et il est 8h45.
Moi, j'ai un conseil à vous donner ce matin. La rédaction d'Europe 1, vous m'entendez? Planquez-vous, il arrive.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup, vous ne l'aviez pas dit.
J'ai oublié, Julie, pardon. Bonjour.
Eh ben, on va revenir avec vous, Nico, sur le principal titre de l'actualité.
Hein? Je n'oublie pas l'actualité, salut à tous. L'actualité, c'est le maréchal Pétrin. Pardonnez-moi ce jeu de mots, mais Emmanuel Macron, vous l'avez compris, s'est mis dans le pétrin tout seul. Alors, on polémique depuis hier sur un événement qui n'aura pas lieu. C'est dire si on s'emmerde. Jean-Michel Apathy, vous avez eu une analyse?
Oui, bonjour ma chère Julie, bonjour mon cher Nikos, bonjour à tous. Effectivement, c'est la polémique du jour. Emmanuel Macron s'est embourbé tel un régiment de poilus dans les hommages au maréchal Pétain. C'est vraiment une drôle d'idée. Si on publiait un traité du majocisme, il y aurait le portrait d'Emmanuel Macron avec un short en cuir et une boule rouge dans la bouche.
Ben oui, cette annonce a surpris tout le monde. Hein.
Mais totalement, totalement. Pourquoi aller s'emberlificoter dans une polémique pareille? Ça pose plusieurs questions, chère Julie, chère Nikos. Oui. La principale étant, qu'est-ce qu'il a fumé? Où est-ce qu'on peut s'en procurer? Est-ce qu'elle est pure et cultivée de façon éco-responsable? Parce que ça a l'air d'être de la bonne. Pourquoi as-tu eu cette idée saugrenue de parler de Pétain? C'est quoi le but? On n'y comprend rien, rien, rien.
Régale. Merci Jean-Michel.
Trop fort, trop fort.
Allez, on va en parler avec le principal intéressé. Hein. Bonjour Emmanuel Macron.
Oui, bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, il suffit avec cette polémique, il n'en est pas une. Vous créez des polémiques tout seul, mes enfants. Pardonnez-moi de vous le dire, et résultat, ma tournée mémorielle est foutue. Pétain aura trahi la France, fait tuer des gens et bousillé mon itinérance mémorielle. Quel seul opieux.
Bon, on est quand même obligé de citer votre phrase. Hein. Le maréchal Pétain a été pendant la Première Guerre un grand soldat, même s'il a conduit des choix funestes pendant la Seconde Guerre mondiale.
Mais oui, ça a été un grand soldat, décoré pendant 14-18. Comme Hitler. Hitler, vous savez, a été, il ne faut pas oublier, un grand peintre. Pardonnez-moi, c'est peut-être pas le bon exemple. Mais prenons Landru. Landru, il ne faut pas l'oublier, malgré des choix funestes, a été un formidable cuisinier. Précurseur dans les énergies renouvelables, puisqu'il a trouvé de nouveaux combustibles.
Non. Écoutez, ça va, on va parler d'autre chose peut-être. Hein. Bon. La grogne continue contre les prix du carburant, par exemple.
Tout à fait, le prix du carburant. D'ailleurs, je tiens à rendre hommage à Émile Louis.
Hein ?
Émile Louis, avant de faire des choix funestes, c'était un chauffeur de car exceptionnel. Il ne s'est jamais plaint, lui, du prix de l'essence. C'est l'histoire, c'est cela.
Au secours.
Oh, écoutez, bon, en tout cas, l'Élysée a passé la journée à minimiser la polémique. Hein, et finalement, aucun hommage ne sera rendu à Pétain.
Ben, moi, je dis bravo Emmanuel Macron.
Richard Virac ? Mais qu'est-ce que vous faites là ?
Ben, je tiens à féliciter le président de la République pour sa condition physique et sa technique. C'est un champion du rétro-pédalage. Ah. Je pense qu'il peut faire le Tour de France en marche arrière, Emmanuel Macron. Passer le col du Galibier à l'envers, suivi par une quatrelle cochonou. Il a le niveau.
Ah bah merci d'être passé, Richard. Ça nous a fait sourire, en tout cas. Les cérémonies du 11 novembre se préparent. Donald Trump sera présent et pourrait aller à Meaux pour une visite officielle. Jean-François Copé, bonjour. Vous êtes le maire de Meaux.
Enfin, il faut que le président des États-Unis vienne me voir pour qu'on daigne enfin recevoir... C'est ça l'affreux Copé, le méchant Copé, le pas beau, c'est ça, hein, le tricard. Non, écoutez, il ne faut surtout pas le recevoir sans s'interdit, il ne faut pas y aller.
Oh, c'est bon, mais vous avez fini avec la victimisation.
Allez, ça va être de ma faute encore. Copé la chialeuse, c'est ça, Copé Calimero, le monde est vraiment top injuste avec Copé. Non, je ne peux pas être sincère, c'est ça. Mais non, Copé, il ne peut pas être sincère, c'est le méchant Copé qui n'est pas beau, qui n'est pas assez beau pour vous, c'est ça.
Je voulais vous interroger sur la visite de Donald Trump à Meaux. Bah, on n'a plus le temps du coup avec
Copé. Mais ça continue, mais on s'en fout de le censurer à Copé, vu que c'est l'affreux Copé, le méchant, la chialeuse qui se plaint tout le temps.
Allez, merci, ça suffit. On vous laisse, monsieur Copé. À bientôt. Voilà. Et voilà, écoutez. La grogne monte dans toutes les régions de France à la suite de la hausse du prix de l'essence. On va en parler avec Jean-Pierre Pernaut.
Ah. Eh oui, bonjour ma chère Julie, bonjour à mon collègue intervieweur de président, mon cher Nico Saliagas, bonjour à tous. Bonjour. Alors, vous l'avez dit, la colère monte dans toutes les régions de France, notamment à Glandes-sur-Mégaboule. Le maire Francis Ralafrange a décidé de verser des chèques transport aux habitants pour faciliter leur déplacement.
Ben oui, certaines régions mettent en place des mesures d'accompagnement.
Oui, il faut accompagner, c'est une nécessité. La transition énergétique, des alternatives se mettent en place, notamment à Turbo dans la Titine où le doyen de la ville, Marcel Piston, a mis au point un carburant révolutionnaire à base d'alcool de chiens errants, distillé pour produire un alcool à 100 degrés, autrefois utilisé pour les anesthésies générales, mais qui depuis quelques années fait monter les Renault 5 à 230 km/h.
En tout cas, on sent que la colère monte un peu partout. Hein. Qu'est-ce qui va exactement se passer le 17 novembre, dites-nous.
Alors, le 17 novembre, ma chère Julie, pour le savoir, direction le petit village de Macron sur l'échafaud, où les paysans locaux préparent activement le 17 novembre. On nettoie activement la broyeuse à moutons de l'abattoir local, dans l'espoir d'y balancer tout le gouvernement, une ambiance bien sûr festive, typique de nos régions.
Merci Jean-Pierre Pernaut.
On vous embrasse, Jean-Pierre
Pernaut. Oui. Allez, pour terminer, on va faire un point sur la route du Rhum. On a un hélicoptère qui suit les bateaux. Et dans cet hélicoptère, Lionel Chamoulot. Bonjour Lionel.
Oui, bonjour ma chère Julie. Effectivement, je suis dans l'hélicoptère d'Europe 1 pour suivre la route du Rhum, une route... Ma foi, c'est large puisqu'il s'agit de l'océan Atlantique qui est assez grand. Un océan, ma foi, plein d'eau. L'eau, vous savez, c'est ce qui tombe parfois sur le châtrier.
Alors Lionel, où en sont les Français ?
J'aperçois Charal qui vient de dépasser à l'instant Alain Fleloup qui essaye de le redépasser. C'est assez gonflé comme manœuvre. Il est fou à Fleloup, il est fou. Et voilà, elle est passée devant.
Oui, mais Lionel, qui est en tête de la course ?
Là, un problème, là, c'est le breton Erwan Ploumanac sur Armor Lux qui Attendez, je lis mon téléx. Alors, il a la drisse de phoque qui s'est prise dans le taquet coinceur de l'écoutille d'Artimon et ça fait empanner le parabattage avant droit dans les haubans du cabestan principal. Alors évidemment, on comprend mieux ses détresses.
On comprend mieux. C'est un peu technique hein, comme langage. Non, mais dites-nous concrètement ce qui se passe.
Écoutez, alors en fait, ça dépend de l'étanchéité du bastingage. Si le démaillage de la bobe peut se faire sans dégrer les jambettes, ce qui permet d'empanner le battage avant droit dans les haubans du cabestan principal. C'est important de comprendre et d'être clair pour mieux suivre cette route du Rhum.
Ah ben on en sait plus grâce à vous. Allez, merci.
Et j'ai une réclamation de 4 roues sous un parapluie. Mon cher Nicolas sur Twitter qui dit le Tour de France, il s'agit d'une 2 chevaux cochonou et non d'une 4L. Attention.
Ah, alors.
Soyons précis.
Faut être précis.
Jamais dans les détails.
Le tour de la question tous les matins, 9h-11h. Et qu'est-ce que vous avez au programme, Wendy Bouchard?
Ah bien, chers amis, une question bouleversante. Pourquoi ne réussit-on pas à mieux contrôler le harcèlement à l'école? C'est la journée nationale contre le harcèlement. 1 enfant sur 10 concerné, 6% des enfants. Ça commence parfois tout petit. Dans un instant, dans votre débrief, on entendra Charlie. Il a 7 ans et il est tapé par un petit garçon. Il veut rejoindre le bon Dieu. C'est absolument terrifiant. Et ça existe.
Ce témoignage nous a glacé dans le journal de 7 ans.
Il est glaçant. Et Jonathan Destin, qui lui s'est immolé il y a quelques années maintenant, qui est brûlé à 72% parce qu'il a été harcelé. Aide ses petits-enfants notamment et ceux qui sont harcelés à s'en sortir. Voilà, comme il aurait voulu être aidé à son âge. Alors, ancienne victime du harcèlement, parents, professeurs, vous nous appelez au 3921. C'est une question vaste et très forte qu'on aborde ce matin dans le tour de la question.
On va vous écouter à partir de 9h, Wendy Bouchard, sur Europe 1. Il y a aussi l'essentiel de la matinale, juste avant 9h, ma chère Céline.
Oui, la météo avec Laurent Cabrol arrive également. Il est 8h53. Il est 8h56, à suivre l'essentiel de la matinale avec vous, Nico Saliagas. Mais tout de suite, on retrouve Laurent Cabrol pour la météo.
Mon cher Laurent, l'automne est là et le ciel est plus menaçant sur la pointe bretonne.
Oui, ce sera le cas en fin de journée d'ailleurs. Et pour l'instant, ce que l'on retiendra essentiellement, c'est que les températures sont un peu fraîches, pour pas dire froides, entre 4 et 10 degrés, c'est pas chaud chaud. Et puis on retiendra aussi que dans la journée, ma foi, nous aurons de belles éclaircies. Alors il y a beaucoup de brouillard, beaucoup de brume, mais tout ceci n'a rien d'inquiétant dans la mesure où ils vont se disperser et nous aurons ensuite, je dis bien des éclaircies, pas un soleil limpide, on n'est pas encore en été, enfin on n'est pas du tout en été, on est à l'automne, vous l'avez dit, et donc nous aurons un temps le plus souvent en ensoleillé, mais sous forme d'éclaircie. Les températures maximales maintenant, 11 à Verdun, 12 à Paris et Nancy cet après-midi, 13 à Caen, Bourges, Lille, Clermont, Poitiers, Belfort, Lyon. Je cite les grandes villes, hein, puis si vous êtes tout autour, dans un rayon de 150 km, c'est la même masse d'air. Hein. 14 degrés à Bordeaux, à Rennes, à Nantes et Strasbourg, Limoges, Agen, Toulouse et Biarritz entre 15 et 16, 17 à Biarritz et 19 degrés à Marseille et à Nice, c'est là qu'il fera le plus doux. Donc c'est une journée, ma foi, qui ressemblera d'assez près au temps de la semaine prochaine. On verra par le détail ce qu'il en est à 10h. En ce qui concerne la journée de demain, ce sera beaucoup moins souriant et nous aurons de la pluie dans l'Est et une nouvelle perturbation qui arrivera également par la Bretagne. Et puis samedi sera vraiment la journée la moins agréable, loin, oui, de très loin, la moins agréable de la semaine.
Merci beaucoup Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Jeudi 8 novembre, on revient sur les moments forts de cette matinale avec vous Nico Saliagas.
L'essentiel de la matinale, ce qu'il ne fallait pas rater. À Marseille tout d'abord, les recherches dans les décombres de 2 immeubles sont désormais suspendues. Décision des autorités qui craignent de nouveaux effondrements. Le bilan provisoire fait toujours état de 6 morts. Le maire de la ville, Jean-Claude Gaudin, doit s'exprimer dans 2 heures lors d'une conférence de presse. Il devra rassurer les habitants du quartier, toujours très inquiets, comme Léa qui a choisi de quitter son appartement. C'était dans le journal de 7h. Écoutez son témoignage.
On a du mal à dormir, on a peur que notre bâtiment s'écroule. On a des fissures au plafond, au mur. Ils vous répondent, on ne dépense pas cet argent pour ce bâtiment.
C'est ce que vous dit le syndic?
Oui, tous les bâtiments sont fissurés, dont le nôtre, on en a marre, on n'a pas envie de mourir dans ça. Je ne pensais pas qu'un tel drame allait se passer. On se croira en Irak, avec tous ces gravats et ces bâtiments qui menacent de s'effondrer encore.
C'est la question qui fait polémique depuis hier, après la petite phrase d'Emmanuel Macron. Peut-on commémorer Philippe Pétain? Les propos du président agitent les passions. Écoutez ce qu'en pense le philosophe et écrivain Frédéric Lenoir. Il était mon invité à 7h45 et il nous invite à plus de distance et de méditation.
Le paradoxe, c'est qu'on est malheureux collectivement. C'est-à-dire qu'individuellement, ça va plutôt bien. Mais collectivement, on est un des peuples qui est le plus pessimiste de la Terre. Alors qu'on est quand même un des pays que les plus enviés du monde entier. C'est assez symptomatique de notre culture française. Regardez la polémique sur Pétain. Il n'y a pas de quoi faire une énorme polémique. Et je pense qu'il faut plutôt se focaliser sur les problèmes du présent et essayer de construire un avenir meilleur qu'en permanence polémiquer sur le passé.
Et puis c'est aujourd'hui la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire qui touche chaque année 700 000 enfants. Et puis c'est ce jeune homme de 7 ans, vous allez l'entendre cet enfant, l'enregistrement provient d'une vidéo postée hier soir sur le site du Parisien. On y voit un petit garçon en larmes parlant du harcèlement dont il est victime. Il évoque même le suicide. C'est une séquence bouleversante. Écoutez bien, c'était dans le journal de 7 heures.
Depuis l'année dernière, j'ai un petit garçon qui me tape tout le temps. Aujourd'hui, c'est mon petit frère qui tape. J'ai dit à ma maman que j'ai envie de rejoindre le bon Dieu, de mourir. J'en ai marre de ce petit garçon qui arrête de me taper.
La question très dure, insupportable du harcèlement scolaire. À la une de l'émission Le Tour de la Question dans moins de 2 minutes avec Wendy Bouchard. Voilà pour l'essentiel de cette matinale. Merci à toute l'équipe de 7-9, merci à la rédaction, aux techniciens, aux journalistes, aux reporters. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée à tous à l'écoute d'Europe 1. Rendez-vous la semaine prochaine. Quant à moi, demain c'est Pierre de Villeneuve qui sera devant ce micro. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous.